Votre émission L'Enjase du mardi 17 février commence à l'instant, midi 1 minute. Je vous annonce immédiatement, on n'est pas en 2022. On n'est pas non plus en 2018. On est bel et bien, Antonine et Mathias, le 17 février 2026. D'accord?
Es-tu sûr?
Oui. Les auditeurs, vous pouvez réagir au 418-971-1021. Ceux qui nous écoutent via les ondes hertziennes. Ceux qui nous écoutent via le blvd.fm, c'est-à-dire notre web radio. Et vous allez avoir les meilleurs moments de l'émission au blvd.fm dans la section réécouter par la suite. Ceux qui sont à l'écoute via l'application BLVD 102.1 sur App Store, Google Play Store. Ceux qui ont dit à leur haut-parleur intelligent, écoutez BLVD. Ceux qui se retrouvent sur Twitch à l'instant même et qui disent, faut absolument que je vienne voir ma gang du midi. Et enfin, ceux qui sont abonnés à la page YouTube et qui vont pouvoir réécouter après l'émission le caucus avec Antonine Iaccarini. Non, on n'est pas en 2018. Non, on n'est pas en 2022. On est bel et bien le 17 février 2026, mais on va parler de quoi, Antonine et Mathias, aujourd'hui?
De tramway?
Non!
Non!
Ah! Ça, c'est la semaine passée qu'on coupait les arbres.
OK, c'est ça, OK.
Ça, c'est hier que Stéphane
Lachance... Ça date déjà.
C'est hier que Stéphane Lachance, qui en campagne électorale municipale, avait fait le tour de la municipalité en disant « Moi, je suis pro-environnement, pro-arbre. » C'est hier qu'il a fait sa conférence de presse. Ça, c'était hier.
Ben, si on parle pas de tramway, il y a juste un autre dossier.
Lequel?
Au cours des dernières années
Mais
à Québec.
Lequel?
Il y en a juste un deuxième. Je pense que c'est le troisième lien.
On va parler du troisième lien. Antonine, es-tu aussi excitée que moi?
Oui, très excitée.
T'es excitée, hein? On va parler du troisième lien. On va parler d'une autre marche arrière. Mais, je vais me positionner tout de suite. Puis là, je suis quasiment gêné de dire ça. Le 17 février 2026. Mais c'est tellement tout croche la CAQ, je pense que c'est une marche arrière qu'on avait besoin. C'est pas drôle.
Je suis assez d'accord avec toi. Honnêtement, là, s'il n'y avait pas eu toute l'historique du dossier, je pense que cette annonce-là, dont on va parler tantôt,
oui.
On l'aurait saluée dans le sens que c'est dommage parce que dès le départ, si on avait aligné les choses comme il faut, ben peut-être qu'on serait en train de commencer des travaux.
C'est un super beau plan. Court terme, moyen terme, long terme. Il y a trois phases. Phase 1, phase 2, phase 3. C'est super. En 2018, ça aurait été écœurant que la CAQ nous ponde ça. Mais là, c'est en 2026. Sauf que on peut pas non plus tout reprocher à Christine Fréchette qui, elle, arrive comme candidate à la chefferie puis dit « Mais savez-vous quoi? Peut-être que François Legault puis Geneviève Guilbeault qui ont géré ce dossier-là l'ont géré tout croche. »
Ben c'est ça. C'est que Mme Fréchette... Elle devait prendre un positionnement sur le troisième lien. Elle ne pouvait pas faire abstraction de ce qui s'est passé dans les 7 dernières années dans le dossier. Et on s'entend que ça ne mettait pas la table là, pour que n'importe quelle annonce que tu allais faire, peu importe ce que tu allais annoncer, ça soit accueilli là, comme lettre à la poste.
Exactement. Merci à Éric et Pierre d'avoir découvert qu'on allait parler du troisième lien pour une 8e année consécutive. Sans qu'il y ait de réalisation dans le plan court terme, moyen terme et long terme qu'on va vous présenter de Christine Fréchette. Je pense que c'est ça la grosse nouvelle, même si on le savait déjà, c'est de se rendre compte à quel point il n'y a rien qui a été fait en 8 ans. Mathias, veux-tu nous résumer cette annonce justement que Christine Fréchette a faite ce matin à 10h? Et fais-moi penser, Antonine, il va vraiment falloir parler aussi de l'appui de Martine Biron à Christine Fréchette.
Oui, donc le plan de mobilité pour Québec qui a été présenté par Christine Fréchette aujourd'hui, c'est un plan qui amène beaucoup de choses que la CAQ était censée de faire puis qui n'ont pas fait finalement. La phase 1, c'est agir maintenant. Donc, cette phase-là qui va s'échelonner sur quelques années. On commence par le réaménagement de la tête des ponts à Québec.
Ça avait été annulé par Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, l'an passé au plan... au PQI, donc au plan des infrastructures. Parfait.
Ah, puis tu vas voir, c'est pas le premier qui a été annulé par la CAQ. Hein? Poursuivre l'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis. Donc, l'idée, c'est de faire sur 6 kilomètres au lieu de 3 et quelques kilomètres.
Encore annulé par Geneviève Guilbeault, un plan qui faisait partie du PQI depuis des années.
Abaisser le tablier du pont de Québec pour y permettre le camionnage. Puis ça, je tiens à le préciser, ça n'a pas été annulé par la CAQ. Par contre, Jonathan Julien a dit en 2025 qu'il n'y avait pas d'avantage à baisser le tablier du pont de Québec.
Oui, exactement. François Bonnardel est revenu là-dessus. On en parlera tout à l'heure.
Construire un pont à étagement à l'intersection Robert-Bourassa-Le Bourgneuf, un projet qui a été abandonné en 2025 par la CAQ. Lancer un appel de proposition pour un nouveau lien interrive à l'Est en partenariat public-privé. Vous en devinerez donc que le troisième lien, présentement dans le corridor central, on le met aux poubelles. Ouais. La phase 2, qu'on a appelée optimiser les infrastructures. On parle de revoir la configuration de la tête des ponts, mais du côté de Lévis cette fois-ci, et d'ajouter une septième voie au pont Pierre-Laporte. Et finalement, la phase 3, le nouveau lien interrive, le fameux troisième lien. À ce moment-là, on parle de construire un lien interrive à l'Est en partenariat public-privé et donc un pont à péage.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini, vous l'aurez compris, on va commencer avec cette annonce sur le troisième lien d'équipe Christine Fréchette, je vais le dire comme ça parce qu'elle était accompagnée de Martine Biron et François Bonnardel. François Bonnardel, pas futile sa présence, c'est l'ex-ministre des Transports avant Geneviève Guilbeault, donc lui de 2018 à 2022 qui a travaillé sur le projet de troisième lien. Anto, honnêtement... C'est un plan hyper bien détaillé, c'est un plan méthodique, c'est un très, très, très bon plan. C'est juste valeur pour les électeurs de la CAQ. Ils arrivent en 2026 au lieu de 2018, puis il n'y a pas grand-chance que la CAQ gagne dans la région de Québec malgré cet excellent plan que Mathias vient de nous détailler.
Oui, puis on écoutait les phases 1, phase 2, phase 3. On s'entend que c'est pas demain la veille, là. Et même, j'irais plus loin... Si on décline vraiment, on déploie toute la phase 1, moi, je pense qu'il va y avoir réévaluation aussi du véritable besoin pour la suite parce qu'on vient déployer un paquet de solutions pour s'assurer une meilleure mobilité. Et déjà, c'était un peu fragile, la justification de construire une nouvelle infrastructure. Quand Mme Guilbeault s'est présentée avec tous ses cartables pour tirer la plug sur le projet, elle avait des données à l'appui qui démontraient que non seulement on arrivait mal à justifier l'achalandage pour construire une toute nouvelle infrastructure routière.
Ouais.
Peut-être transport collectif, ça pourrait effectivement, comme on a vu dans le rapport sur la mobilité de CDPQ Infrastructure, qui nous démontrait que, en fait, ça aurait un impact probablement plus grand que de rajouter des autos qui arriveraient là, selon plusieurs scénarios à différents endroits dans la ville. Et qu'un troisième lien, à ce moment-là, on nous avait dit que ça nous ferait gagner 5 minutes en moyenne chez les automobilistes, mais que ça créerait aussi tout un paquet de problématiques, puis ça coûtait cher aussi. Donc, évidemment, moi, je pense que si on déploie toutes ces solutions-là, la justification de construire le troisième lien éventuellement, ça risque de donner une porte de sortie à peu importe le gouvernement qui sera au pouvoir à ce moment-là.
Oui, puis je pense, et corrige-moi si je me trompe, dans le fait de vouloir s'associer au privé et de faire un pont à péage, bien, on va donner la responsabilité au privé de rentabiliser cette infrastructure-là. Donc, ça sera une entreprise privée de prendre le risque ou non de construire l'infrastructure avec une subvention du provincial, mais où le provincial ne sera pas seul parce qu'on veut s'adjoindre le fédéral et avec le fait qu'il va y avoir une partie payée par le privé. Fait qu'au lieu que la CAQ ou le gouvernement du Québec, parce que ça sera vraisemblablement pas la CAQ qui va être réélue, donc au lieu que le gouvernement du Québec investisse 11 milliards dans un projet qui, rappelons-le, selon les données, avec le corridor central, donnait à peu près un gain de temps de 2 minutes et demie. Là, 11 milliards de 2 minutes et demie, c'était pas mal fou.
C'est cher.
Bien là, le gouvernement provincial va peut-être investir 2 ou 3 milliards et ça sera une entreprise privée de le rentabiliser avec les droits de passage.
Le problème avec ça, c'est justement, tu l'as dit, il faut que ce soit rentable pour une entreprise privée. Et ça veut dire que quand il va avoir l'appel à proposition, toi, tu as une entreprise, là, tu construis des ponts dans la vie, OK? Là, tu vois ça. Tu vois aussi l'historique du dossier. Il y a eu tellement de changements d'idées. Le dossier est hautement politisé. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des entreprises qui vont dire Oui, moi, là, ça, là, c'est un bon projet. Je vais mettre des ressources parce que les gens ne savent peut-être pas, mais pour une entreprise, de participer à un appel de proposition, ça demande des ressources à l'interne. Il faut que tu évalues certaines choses. Est-ce que l'historique du dossier donne envie à des entreprises de se lancer dans un partenariat avec le gouvernement là-dessus? J'ai des doutes.
L'historique, et j'ai envie de te dire le positionnement aussi, parce qu'on n'y pense pas. Nous, un troisième lien à l'Est, ça paraît stratégique pour le périphérique. Mais pour une entreprise privée qui veut rentabiliser un pont présentement, le secteur à l'Est, c'est pas énormément développé en termes urbanistiques. Il n'y a pas énormément de développement ruraux de villes, je veux dire. Est-ce qu'une entreprise verrait vraiment un lien positionné là puis se dirait « Ouais, ce lien-là va être rentable. »
Bien, ils sont mieux équipés que nous pour faire certaines études d'évaluation pour projeter l'achalandage dans les prochaines années. Puis d'ailleurs, les opposants au troisième lien disent que ça favorise l'étalement urbain et c'est sûr que c'est le cas. Là. Si tu pars un troisième lien dans une zone
par contre, l'étalement urbain est déjà présent parce qu'encore hier, en une, Journal de Québec, c'était le développement dans la MRC de Portneuf et de Côte-de-Beaupré.
On n'a pas inventé ça matin, l'étalement urbain.
Fait que je pense pas que le troisième lien va être si contributeur d'un mouvement qui est déjà là.
Ça peut contribuer beaucoup, mais après ça, tu mets tout ça dans la balance puis tu regardes les bénéfices puis les désavantages puis tu prends ta décision. Mais reste que la raison pour laquelle aussi il n'y a pas eu d'annonce dans les dernières années sur un troisième lien à l'Est, c'est que techniquement,
c'est très difficile.
C'est très compliqué.
Oui, bien, c'est la raison pour laquelle Bernard Drainville se rabattait sur le corridor central.
Oui. Et ce que M. Drainville nous disait, c'est que peut-être qu'il n'est pas parfait, le projet, mais c'est un projet qui est faisable et qu'on a déjà commencé, donc continuons là-dedans. Et là, ça m'amène à parler de la différence entre les deux candidats face à ce projet de troisième lien et leurs annonces respectives. Ça vient vraiment démontrer leur approche et leur personnalité comme candidats aussi. M. Drainville qui dit « Arrêtons de tergiverser et avançons ». Et c'est vrai qu'après des années de tergiversation, tu te dis « Mon Dieu, est-ce qu'on va vraiment encore retourner à la table à dessin? »
Bien, en effet.
Il y a un point, là. Puis aussi, on n'est pas toujours obligé d'attendre que les ponts tombent à terre pour en construire un autre. Là, on a vu ce qui s'est passé avec le pont Champlain à Montréal. On peut éviter ça. Là.
Exactement. Puis je vais faire une comparaison avec le tramway parce que c'est les deux projets qui ont pris l'ensemble des...
de l'oxygène des débats à Québec. Oui.
Ben, le tramway, c'est un peu ça. Moi, j'ai le tramway présentement dans le corridor qu'on va le faire. Moi, personnellement, tant qu'à faire le tramway, je l'aurais fait dans son entier.
T'étais dans l'approche tant qu'à y être.
Moi, j'étais dans l'approche... Écoute, c'est vrai qu'on a des problèmes de mobilité à Québec. La CDPQ Infra nous dit c'est ces trois phases-là de tramway qui vont vous amener plus de monde dans le transport en commun puis qui vont être une bonne solution vers le fait qu'on va devenir 1 million dans la grande région de Québec. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi qu'on en fait juste un? Faisons un trois. Parce que juste un, ça servira à rien. Mais je comprends, à un moment donné, je me suis rabattu à dire, ouais, il faut commencer en quelque part.
Oui, puis à un moment donné aussi, on peut pas, dans le PQI, on peut pas toujours en ajouter. Donc, si on regarde maintenant du côté de Christine Fréchette, bien, ça démontre, comme tu disais en introduction tantôt, son côté plus méthodique, plus studieux. M. Drainville dirait plus hésitante, plus on consulte et on repousse les décisions à plus tard. Les deux peuvent être vrais selon... Moi, je pense que les gens qui aiment déjà Christine Fréchette vont se dire, voilà, elle est responsable, c'est des milliards de dollars, faisons les choses comme il faut. Puis ceux qui ne l'aimaient déjà pas vont dire, bien, c'est ça, comme d'habitude, on repousse les vraies décisions à plus tard. On se trouve un espèce de faux fuyant. Et d'ici l'élection, il n'y aura rien de vraiment commencé de toute façon. Fait qu'on s'en sort bien politiquement.
Oui, bien, c'est là ma question. C'est des projets que la CAQ avait tous dans leur carton. Pas toutes, mais plusieurs que la CAQ avait prévus. Puis finalement, ils les ont pas faits. Est-ce que l'électorat va croire Christine Fréchette lorsqu'elle dit « Cette fois-ci, c'est la bonne. On va vraiment les faire, des projets qu'on fait pas depuis des années. »
Ouais, je dirais que les plus optimistes, les plus positifs vont dire « Ben, c'était pas elle qui était là. Elle n'est pas responsable de comment ça s'est passé dans le dossier depuis toutes ces années-là. »
Sais-tu quoi? Je suis parmi ceux-là.
Bon, c'est ça. Donc, il va y avoir certaines personnes qui vont penser comme ça. Mais je pense qu'il va y avoir quand même une bonne partie de la population qui n'écoute même plus ce qu'aucun caquiste a à dire dans le dossier. Et surtout, on est en année électorale. Donc déjà, les gens ne sont pas dupes. Ils savent bien qu'on est dans un moment où on essaie d'aller séduire l'électorat. Et malheureusement, ce qui s'est passé à l'élection 2022 avec la CAQ et le troisième lien, ça laisse des traces indélébiles.
Ben oui.
On se rappelle que pendant l'élection partielle dans Jean Talon en 2023, celle qui a fait élire Pascal Paradis, député du PQ, il avait expliqué publiquement qu'il avait été approché par la CAQ. Il y avait eu des discussions avec la CAQ pour peut-être être candidat caquiste en 2022 et qu'on lui avait donné l'assurance qu'on allait tirer la plug sur le projet de troisième lien. Puis ça, c'était pendant la campagne électorale de 2022, alors que le tirage de plug s'est passé après l'élection. Donc, qui dit vrai? Moi, je n'étais pas dans la pièce quand il y a eu ces discussions-là, mais la réalité, c'est qu'ils ont fini par tirer la plug sur le troisième lien, malgré un engagement électoral qui était là en 2022. Donc ça laisse des traces sur le niveau de confiance des citoyens, c'est sûr.
Vous êtes énormément à réagir. Pascal, salut, Jeff. Est-ce possible de demander à Mme Fréchette de faire le troisième lien en premier? Parce que si elle fait les autres travaux sur les deux ponts, ça va faire des bouchons, donc le troisième lien aiderait beaucoup. En effet, Pascal, mais c'est dans la séquence. C'est que dans la séquence... Tout est déjà prêt pour réaménager la tête des ponts de Québec. Tout est déjà prêt pour élargir l'autoroute 20. Tout est déjà prêt pour faire le pont à étagement. Donc, si on attend un troisième lien, c'est que ça veut dire que ça arrive dans 10 ans.
Puis ça veut dire qu'on n'a aucun impact sur la circulation, la mobilité pour encore plusieurs années.
En plein ça.
Mais je comprends son raisonnement.
Ben
parce
oui.
que quand il y a des travaux, évidemment, on est affecté. On le sait. Là, on en a eu beaucoup dans la dernière année à Québec. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'on s'imagine avoir une autre alternative pour pouvoir traverser puis fuir ces bouchons-là. Moi aussi, j'aurais aimé ça, mais malheureusement, ça se peut pas.
Puis justement, là, on parle du troisième lien qui est dans la dernière phase du projet. Est-ce que Mme Fréchette le met aussi loin que ça pour se dire, je fais mes autres projets, c'est eux autres que je juge prioritaires?
Ben oui.
Puis elle sait que c'est gagnant politiquement, mais elle peut se garder une porte de sortie vu qu'il est dans plus longtemps.
Ben écoute, moi, c'est sûr que je vois ça comme ça. Là. Je trouve que, tu sais, elle a été face à une décision où elle se disait, dans le fond, j'ai trois options. Soit que je dis comme Bernard, puis je me dis, on y va avec le projet, on a pris un engagement face à la population, puis là, il faut arrêter de changer d'idée parce qu'on n'avancera jamais. Puis comme on disait tantôt, il fallait comme reculer pour... tu sais, quand on est en train, là, des fois, il faut reculer pour changer d'aiguillage, là, pour aller prendre un virage. Et de l'autre côté, elle avait l'option de carrément arrêter le projet. Ce qui aurait été probablement l'attente de bien des gens plus dans la région de Montréal, etc., ceux qui sont moins concernés par le dossier. Et entre les deux, ben, il y avait « est-ce qu'on change le projet? » On le fait, mais on change le projet. Et là, elle se donne de l'oxygène dans le temps, ce qui fait que, finalement, ça implique à pas grand-chose.
Est-ce qu'on change le momentum? Et dans son momentum positif qu'elle amène, c'est de dire « je vais faire tous les autres travaux nécessaires à... » Donc, c'est ça le momentum aussi qu'elle amène.
Moi, ça me rejoint jusqu'à un certain point parce que moi, j'ai jamais été contre le projet troisième lien. J'aimerais ça qu'il y ait un troisième lien qui fonctionne bien, qui s'intègre bien dans la circulation et qui augmente la mobilité à Québec. Okay? Puis moi, l'argument environnemental de dire que la crise climatique repose sur nos épaules à Québec, là, ça va être correct. Là, non, j'achète pas ça. Mais je suis consciente aussi qu'on a des infrastructures partout au Québec qu'on doit réparer. Donc, avant de construire des nouvelles infrastructures, moi, j'ai besoin de savoir que, un, c'est urgent, que c'est vraiment une priorité. Donc, moi, personnellement, je suis pour un troisième lien. Est-ce que c'est ma priorité tous les instants cette année et qu'on doit dépenser 11 milliards de dollars là-dessus, là, à court terme? Je suis obligée de dire que non. Donc, ce que Mme Fréchette propose, c'est qu'on ne ferme pas la porte, on continue d'avancer, mais en même temps, on se garoche pas à dépenser de l'argent pour un projet qui peut-être qu'après les travaux qui ont été proposés va être moins un besoin de toute façon. Puis si on est pour le troisième lien, on n'est pas non plus, tu sais, moi, je veux dire, c'est pas idéologique, là, genre, non, je veux pas qu'on fasse d'autres travaux. Si c'est le même objectif puis le même effet, je m'en fous que ce soit un troisième lien, je m'en fous. Je veux juste que les gens à Québec, y ait une mobilité qui soit efficace, puis on veut pas se retrouver, surtout qu'on a une ville qui est en développement, on veut pas se retrouver comme Montréal, pogné dans des bouchons puis pas capable de circuler. Là.
En plein ça. Évidemment, Christine Fréchette s'est fait poser la question en conférence de presse, et en passant, Christine Fréchette va être avec nous aux alentours de 13h, donc si vous avez des questions pour elle, n'hésitez pas au 418-971-1021. Elle s'est fait poser la question, est-ce que c'est un désaveu envers la CAQ?
C'est sûr que ça n'a pas été un dossier dont on salue la gestion au fil des ans. Ça a été difficile, ce dossier-là. Et peut-être que ça a créé des enjeux au niveau de la circulation, mais nous, ce qu'on veut, c'est agir rapidement, à brève échéance, pour faire en sorte d'améliorer la situation, la fluidité. On reconnaît qu'il y a des enjeux de ce côté-là, mais il n'y a pas une seule réponse qui pourra régler les enjeux de circulation. Il va falloir un bouquet d'options, et c'est ce qu'on prévoit, une variété d'options à mettre en place dès les prochains mois, au cours des prochaines années, pour que les gens voient l'amélioration.
Et elle a ajouté.
Moi, je pense qu'on a mis nos œufs dans trop peu de paniers. Il faut y aller de manière diversifiée. Il n'y a pas une baguette magique qui va régler les enjeux de circulation dans la région. Et c'est ce qu'on vous offre ce matin, une variété d'actions à court et moyen terme.
Moi, je vais avoir une question là, pour Christine Fréchette. Là. Ça va être de dire à quel point elle trouve que François Legault et Geneviève Guilbeault ont erré dans le dossier.
Bien, c'est une bonne question. Puis c'est sûr, parce qu'elle, elle hérite de ça. S'il n'y avait pas eu toute cette historique-là, son annonce aujourd'hui, ce serait beaucoup plus simple à faire. C'est sûr qu'elle a une opinion là-dessus. Bon, on va voir si ça nous donne une réponse de politicienne.
On va donner une réponse de politicienne, mais je vais lui poser quand même la question.
C'est une question que tout le monde se pose.
J'essaierai une petite relance. Non, c'est ça. Donc, vois-tu, il y a Johnny qui écrit « On n'avance pas pour supposément 11 milliards, mais on fonce dans le tas pour le tramway de 13 milliards. » Bien, malheureusement, t'as entièrement raison, Johnny. On se pose vraiment énormément de questions sur le coût final du tramway. D'ailleurs, on va avoir Steve Lavoie demain en entrevue avec nous. C'est lui qui a sorti le 13 milliards à la Chambre des communes, aux alentours de 12h35. Et puis, tu sais, moi, je te dirais, Johnny, je suis contre les deux options. Tu sais, moi, le tramway à 13 milliards pour une petite route de 19 km, là, trouvons une autre option, là, parce que pour moi, ça fait pas non plus.
En fait,
ça fait pas plus de sens.
En fait, c'est comme si dans les dernières années, il fallait que tu sois pour un ou pour l'autre, ouais. Contre un ou contre l'autre.
Moi, je suis pour la mobilité en général, puis je suis pour les projets. De toute façon, j'ai toujours dit, moi, je tripais sur le réseau express de la capitale, qui est en 2015. Qui était un serbant à grandeur de la ville de Québec, puis qui allait à Lévis jusqu'au complexe Desjardins, puis qui était un troisième lien périphérique à l'Est. Fait que moi, tu m'aurais donné ça. J'aurais été heureux.
Mais là, malheureusement pour toi, je pense qu'il faut que tu fasses ton deuil.
Ouais.
Je t'avais promis de te rappeler qu'on veut parler aussi de la conférence de presse de Mme Fréchette, parce qu'elle était accompagnée de François Bonnardel. C'est pas banal, tu le disais tantôt, c'est l'ancien ministre des Transports, mais c'est surtout la caution adéquiste. Hein, on le sait. Là. C'est comme si c'était lui qui portait l'héritage de l'ADQ à la CAQ. Et ça avait été un coup dur pour Bernard Drainville de ne pas avoir l'appui de François Bonnardel, lui qui voulait ramener la CAQ là, à sa vraie, son vrai ADN, celui de l'ADQ. Mais il y avait aussi la présence de Martine Biron. Martine Biron, elle est députée dans Chute de la Chaudière, donc c'est l'autre comté, de la Rive-Sud, à côté de Lévis. Et elle a attendu que Mme Fréchette précise son idée sur le troisième lien avant de lui accorder son appui. Parce qu'elle, elle représente ses citoyens. Quand Geneviève Guilbeault avait mis fin au projet troisième lien, ça n'avait pas été très confortable. On se rappelle surtout de Bernard Drainville qui pleure parce que ça avait marqué les esprits, mais Mme Biron n'était pas particulièrement heureuse après ça de se promener dans les épiceries du comté.
Ben non.
C'est pas évident. Donc, le fait pour Mme Fréchette d'avoir la présence de Martine Biron, ça vient aussi démontrer qu'on est capable de satisfaire les gens de la Rive-Sud, parce qu'elle porte un peu la voix de ses citoyens. C'est symbolique. Là. Je ne vous dis pas là, qu'elle est allée chercher l'appui de tous les citoyens ce matin avant d'aller faire le point de presse, mais c'est très symbolique pour Mme Fréchette d'avoir, j'ai envie de dire, enfin un appui dans la région.
Oui, puis Martine Biron a dit, tu sais, moi, anyway, je me promenais en ville, puis les gens me disaient, ça n'a pas d'allure, votre corridor central.
Ben,
donc, moi, je me range avec le plan de Christine Fréchette, parce que je suis convaincu que les gens vont trouver que ça a plus d'allure.
Et le maire de Lévis, en passant. Là,
oui.
C'est ça le problème avec le projet tel qu'il était porté par la CAQ depuis quelques mois maintenant, c'est qu'il n'y avait même pas un appétit ou un appui qui était si fort que ça.
Exactement. Évidemment, les oppositions ont réagi. On écoute Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois.
Surtout des idées qui n'ont aucune crédibilité venant de la CAQ. C'est ça la réalité. C'est la dixième fois qu'il change de discours. Et comme je vous dis, il y a un discours de Christine Fréchette, qui était la ministre de l'Économie quand on nous disait que ça prenait absolument le troisième lien pour des questions de sécurité économique, côte à côte avec le ministre des Transports de 2018 à 2022, qui vous a convoqué un nombre innombrable de fois pour vous dire pourquoi le troisième lien allait avoir lieu. Ce matin, les deux nous annoncent que ça n'aura pas lieu, puis on a d'autres choses. Donc, ce serait une troisième élection consécutive pour la CAQ, où on nous promet quelque chose dans le dossier du troisième lien, puis tout ça tient pas la route.
Je suis tanné de ce genre de politique-là.
Ben, il a raison, hein.
À ta minute. Pascal Paradis a dit sur nos ondes le 5 février dernier.
Oui.
Faut abaisser le tablier du pont de Québec pour faire passer les camions lourds. Faut créer une septième voie sur le pont Pierre-Laporte. Faut faire les travaux à la tête des ponts.
Toutes des affaires
faut
qui sont
annoncées
ce matin.
Faut faire le pont à étagement. Mm. Ça a été ces quatre conditions d'amélioration de la fluidité, de la mobilité.
Oui,
Christine Fréchette présente ça, puis Paul Saint-Pierre Plamondon. Hey, c'est pas crédible, hein, c'est pas si.
Mais c'est pas
c'est des bonnes idées.
Oui, mais c'est normal. Il vient porter la voix de tous ceux qui se disent comment est-ce qu'on peut y croire encore une fois. Tu sais, parce que les partis d'opposition, comme le maire de Québec ou comme le maire de Lévis, là, à chaque fois que la CAQ arrive avec une nouvelle affaire, ils doivent se prononcer. Mais sauf que ça fait 5 fois qu'on se prononce sur des affaires différentes dans du même gouvernement. Donc, à un moment donné, lui, politiquement, là, pourquoi encore se commettre sur une énième proposition? Moi, en tout cas, je comprends sa réaction. Oui, il aurait pu quand même prendre le temps de saluer les améliorations proposées dans la phase 1, compte tenu que son député demandait
ça. Parce que moi, ce que j'aurais fait, si j'avais été Paul Saint-Pierre, je disais, hey, je suis donc bien content, matin, la CAQ nous a écoutés, c'est les solutions qu'on proposait. Ben voyez, il disait pas la CAQ, il disait nous, c'est nos idées.
Moi, ouais, j'avoue que, mettons qu'on était conseiller politique, là, puis que tu avais apporté ça à la table un matin, là, quand on s'est dit, bon, ben, comment on va réagir à l'annonce de Mme Fréchette, je me serais peut-être rangé à tes arguments.
Ben oui, moi, j'aurais dit, regardez comment on est bon, on vient de faire changer la CAQ. Fait que les jeunes de la région de Québec, là...
Ils sont revenus à la raison.
C'est nous autres. Ils sont revenus à la raison, c'est nous autres. C'est PSPP. En plus que PSPP, ils aiment ça avoir raison.
Mais en même temps, c'est vraiment facile de craquer le monde à Québec en disant...
C'est
clair. Tu peux pas croire la CAQ. C'est un terreau fertile parce que les gens sont vraiment rendus cyniques face à ce projet-là. Et le lien de confiance est tellement brisé que peut-être qu'il est allé un peu plus vers la facilité. Je trouve que ta ligne de com' est plus subtile. T'es plus fin renard. Mais je pense que la ligne de PSPP est quand même efficace.
Je pourrais conseiller le futur premier ministre.
Ben, envoie ton CV.
OK, on écoute Éric Duhaime pour terminer cet excellent caucus avec Antonine Iaccarini, disponible du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 101 de midi à 12h30.
Bien, d'abord, qu'ils disent que le tracé centre-ville à centre-ville de la CAQ à 11 milliards n'est pas le bon. Je pense que là-dessus, de plus en plus de gens sont d'accord. Là. À part la CAQ qui nous a roulé dans la farine puis qui a tiré le dossier puis qui a utilisé ça pour ne pas aller de l'avant, je pense que tout le monde est d'accord. Soit étant dit... Là, elle dit que ça va être à l'Est. Là, j'ai compris dans la période des questions qu'elle ne ferme pas la porte au fait que ça passe par l'île d'Orléans. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est la première fois depuis longtemps qu'on entend un caquiste dire que le troisième lien pourrait passer par l'île d'Orléans, qui quant à nous, est le tracé qui a toujours été dans les cartons du ministère des Transports depuis 50, 60 ans.
Garde, il m'a écouté.
Ben, je pense que tu l'as conseillé, là.
Oui, oui. Il a écouté, il a dit, hey, c'est une bonne idée, la CAQ, crime, c'est moi qui l'ai dit en premier.
Mais moi, sur le fond des choses, sur la forme, t'as raison, bravo. Puis je pense que c'est une bonne réaction d'Éric Duhaime. Mais sur le fond des choses, puis je suis pas ingénieur, là, mais là, le pont de l'île d'Orléans, on a déjà commencé à le faire.
Ouais, non, c'est ça, là.
J'ai
la même réflexion.
Ben, j'étais, moi, à la conférence de presse lorsqu'on a annoncé le pont de l'île d'Orléans et j'ai posé la question à Geneviève Guilbeault. Pourquoi nous annoncer le pont de l'île d'Orléans sans avoir statué sur le corridor du troisième lien? Et elle m'a dit c'est deux dossiers complètement différents.
Ben, un, elle a dit ça. Puis deux, c'est parce que déjà, il était cher, hein, le pont, tu te rappelles? Puis
ben
elle s'excusait quasiment en point de presse. Elle a dit, je le sais que c'est cher, là, mais là, à un moment donné, il faut le faire.
C'est 2,8 milliards. Puis elle a dit, ben là, on n'a pas le choix. On ne peut pas laisser ces gens-là se déplacer en radeau.
Ben, ça. Puis après ça, tu laisses traîner le dossier. Qu'est-ce qui va arriver? Le pont va coûter encore plus cher, là, on le sait. Le plus tu laisses traîner les dossiers de transport, plus que ça coûte cher. Donc là, moi, maintenant, je me dis, on ne peut pas revenir dans le passé. Comment ça va fonctionner? Et dans le dossier de troisième lien, puis je termine là-dessus, moi, j'ai toujours été fascinée comment les politiciens se travestissaient de quoi en ingénieur.
Oui!
Puis j'ai jamais entendu des ingénieurs dire qu'un projet était faisable.
T'as jamais cru aux lignes fluo sur un carton d'Éric Duhaime?
Moi, je pense que ça, c'est des conseillers. Ben, ça, c'est tel que tel au Parti conservateur, mais même à la CAQ qui était au gouvernement, j'avais l'impression que des conseillers politiques avaient pris des crayons aussi pour dire on va passer de même, on va passer ça de même.
Ben, les projets napkin, t'es pareil, là, le tramway, là, on m'a pas encore certifié que creuser dans le roc, là,
ça
à Côte d'Abraham, là, ça va bien à l'œil. Ça m'a toujours torpillé l'esprit à suivre, évidemment. Comme on dit, Éric Duhaime, qui s'est également montré ouvert et positif, faut le rappeler, au payage sur le troisième lien, en disant que étant conservateur, bien évidemment, on est pour les utilisateurs payeurs pour aller chercher moins d'impôts et moins de taxes dans les poches des gens en général. Donc, il a démontré une ouverture d'esprit. C'est une excellente entrevue menée par Maxime Larouche dans Le Point de Max. Si vous n'écoutez pas Le Point de Max, écoutez ça de 10h à midi. C'est disponible sur le blvd.fm. Après la pause, Antonine, tu nous as préparé un super invité. Je te laisse le présenter.
Oui, parce que là, on est cette semaine beaucoup dans les suites de la commission Galland. Ce matin, il y avait France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, qui a fait une conférence de presse dans laquelle on allait... en fait, on nous a présenté ça va être quoi les suivis qui seront donnés au rapport Galland. Il y a 26 recommandations. Mais un des éléments qui est ressorti de la commission Galland, c'est que les règles sur le lobbying, parce que les entreprises technologiques, en TI, etc., qui font des représentations auprès du gouvernement, si leur travail de représentation et pas dans leur tâche principale. Mm-hmm. Je l'explique très mal, mais le commissaire au lobbying qui s'en vient nous parler tantôt va vraiment mieux vous l'expliquer. Eh bien, ils ne sont pas couverts, ils ne sont pas obligés de s'inscrire au registre des lobbyistes. Et le commissaire au lobbyisme fait depuis longtemps qu'il dit qu'on doit redonner un tour de roue sur la question du lobbyisme au Québec, qu'on a plusieurs angles morts, on manque de transparence. Et là, ce n'est pas très glamour. T'sais, lui, il demande ça, mais c'était les citoyens dans la rue, souvent, eux autres, ils pensent que le lobbyisme, c'est mal, puis c'est sale, puis c'est méchant. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu'on a besoin, c'est de s'assurer que, en fait, toutes les activités de lobbyisme soient déclarées de manière transparente. Il y en a d'autres angles morts, mais il y a celui-là qui fait que si toi, tu es un patron, un PDG d'une grande entreprise qui veut faire affaire avec le gouvernement, si ce n'est pas ta tâche principale d'être lobbyiste, bien, on ne saura jamais les représentations que tu as faites auprès du gouvernement. Ouais. Donc là,
puis là, on a des exemples concrets avec justement la firme McKinsey durant la COVID.
McKinsey.
Et ce qui s'est passé aussi avec la commission Gallup.
C'est ça. Donc, il y a des choses qui restent un peu dans le noir. Et moi, j'ai toujours cru que ce qui est dans le noir fait toujours plus peur. Mais souvent, quand on met la lumière, c'est pas si pire que ça. Puis il y a des solutions. Tu sais, c'est comme un peu nos finances personnelles. Des fois, tu dis, oh mon Dieu, je veux pas aller voir mon compte, je veux pas aller voir mes dettes. Vas-y, ça va être pas si pire. Ça continue d'exister. Puis quand c'est dans le noir, on dirait que ça pourrit puis que c'est toujours bien épeurant. Donc, la lumière, la transparence, c'est la solution à nos problèmes avec le lobbyisme. En terminant là-dessus, je dois dire que l'après Charbonneau, ça a mis un peu la table justement pour resserrer des règles à toutes sortes de niveaux. Donc là, est-ce que l'après Galant, est-ce que le fruit est mûr pour qu'on redonne un tour de roue pour avoir une meilleure éthique en matière de toutes sortes de choses, là, de gestion des projets, mm-hmm. puis notre argent, là, ça c'est sûr, mais aussi du point de vue des représentations que des entreprises privées ou d'autres organisations font auprès du gouvernement. C'est sain, c'est démocratique, mais il faut que ce soit transparent.
Alors, après la pause, Jean-François Routier, commissaire au lobbyiste, est avec nous en studio pour discuter de ceci. Un enjeu, peut-être, vous dites, ouais, c'est loin de moi. Non, c'est tout près parce que c'est notre argent, c'est l'argent du gouvernement. À l'émission On en jase à Boulevard 101. L'émission On en jase sur Boulevard 101 à la météo. C'est une superbe journée encore une fois. Moins 1, il y aura peut-être un petit peu de neige. Moins 1 demain ensoleillé, 1 degré ensoleillé jeudi, moins 3 ensoleillé pour vendredi. Superbe semaine d'hiver. Mathias, avant qu'on parle avec M. Routier, commissaire au lobbyiste, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité? À part le troisième lien, parce qu'on va en parler après avec Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, et avec Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la CAQ.
La présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, a annoncé aujourd'hui qu'ils envisageaient non seulement poursuivre certains dirigeants de la Société d'assurance automobile du Québec, mais également qu'ils pourraient avoir des recours juridiques possibles contre des firmes qui ont été impliquées dans le dossier SACLIC. Donc, c'est nouveau d'aujourd'hui. On va suivre le dossier à savoir quels seront vraiment les poursuites intentées, quels seront les recours juridiques au cours des prochaines semaines. Deux hommes suspectés d'avoir opéré un laboratoire spécialisé dans la production de faux documents ont été arrêtés par la Sûreté du Québec aujourd'hui. Il y a certains responsables de la SQ qui ont commenté en disant qu'ils n'avaient jamais vu des documents de qualité aussi impeccable de ces faux documents-là. Ces deux hommes-là vont attendre d'être jugés justement pour notamment les accusations de production de faux et de possession de renseignements identificateur. Et je termine avec les statistiques sur l'inflation qui sont sorties aujourd'hui. L'inflation pour le mois de janvier 2026 par rapport à 2025 est de 2,3% au Canada. On parle surtout d'une diminution de 16,7% du prix d'essence qui explique ce 2,3%-là parce que du côté de l'alimentation, on parle de 7,3%, là, ce qui fait plutôt mal. Côté sport, on a une nouvelle médaille d'or juste avant l'émission du midi.
Oui.
On parle du patinage de vitesse longue piste en poursuite. C'est Valérie Maltais, Vanny Blondin et Isabelle Wademan qui décrochent l'or à Milan.
Félicitations à Valérie Maltais qui va chercher une deuxième médaille dans ces Jeux olympiques, une première médaille d'or. Il est exactement midi 41 et on a la chance d'avoir M. Jean-François Routier, commissaire au lobbyiste avec nous en studio. M. Routier, merci beaucoup de votre présence à l'émission On en jase.
Merci de l'invitation.
Monsieur Routier, comment vous avez trouvé le rapport de la commission Galant par rapport à vos tâches? Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce qu'on est allé assez loin? Comment vous évaluez le tout?
Bien, écoutez, quand je me suis présenté à la commission Galland pour aller faire état de nos constats, mais surtout des besoins qu'on avait d'améliorer la loi, j'avais des attentes, oui, et je pensais que le commissaire m'avait bien entendu, avait bien vu les enjeux qu'on soulevait. Donc, très heureux, évidemment, de la recommandation numéro 25, je la connais, qui recommande une refonte complète de notre loi parce que je pense qu'on est rendu là. Évidemment, il y a plein d'autres recommandations à mettre en œuvre, mais celle-là me tient particulièrement à cœur.
L'après Charbonneau, là, quand il y a eu la commission Charbonneau, ça a placé un peu un contexte favorable, justement, à ce qu'on redonne un tour de roue en matière d'éthique dans plein de secteurs, mais notamment en matière de lobbyisme. Est-ce que vous êtes confiant que l'après Galland va vous permettre enfin là, de mettre en place ce qu'il faut pour ce que vous réclamez, en fait, depuis plusieurs années? Là.
Oui, puis je dirais, c'est avec un peu de tristesse, par contre, parce que dans le sens où on passe toujours d'un scandale à des réactions ou d'une situation d'urgence à une réaction d'urgence, alors que pour moi, l'intégrité publique, on aurait dû apprendre de Charbonneau, on n'aurait pas dû laisser nos lois dépérir, on aurait dû renforcer notre gouvernance. Et je parle, oui, du lobbyisme, parce que c'est mon territoire à moi, mais je pense que l'intégrité publique, c'est d'abord et avant tout au bénéfice du citoyen. Donc, il faut penser en fonction de ça. Maintenant, oui, j'espère que le rapport Galland va donner des résultats clairs et précis.
Quelle est votre demande précise envers, justement, les gouvernements, parce qu'on va tomber en élection prochainement, pour ce qui est de l'amélioration des lois entourant le lobbyisme?
Bien, essentiellement, il faut la revoir, cette loi-là. Elle a été adoptée en 2002 à la suite d'un scandale, en passant. Mm-hmm. Et donc, Elle a été conçue en fonction de ça, d'une réponse à un scandale. Maintenant, ça fait quand même 23 ans qu'elle existe. On a appris à travers le temps, on a surtout vu les lacunes de cette loi-là. Vous en avez parlé tout à l'heure en introduction, la fameuse partie importante où, qui fait en sorte qu'il y a certains lobbyistes d'entreprises qui ont rien à déclarer tant et aussi longtemps qu'ils ne font pas des activités pour une partie importante. Ça veut dire qu'on peut aller s'asseoir dans le cabinet d'un ministre ou dans le cabinet du premier ministre pour discuter d'un dossier, pour influencer une décision. Mais si on le fait une seule fois, on n'aurait pas à s'inscrire, on n'aurait pas à être transparent envers nos citoyens. Pour moi, ça ne fonctionne pas.
Puis là, on parle d'entreprises privées. Donc là, dans la tête des citoyens, là, on pense déjà là, qu'ils sont là pour faire de l'argent puis influencer. Mais dans les faits, vous demandez aussi que la transparence soit élargie un peu pour tout le monde, pas juste pour les entreprises, mais aussi les OBNL, parce que c'est pas juste les entreprises, dans le fond, qui devraient théoriquement déclarer ce qu'elles font. Pour le bénéfice des citoyens, pour avoir un portrait complet, il faudrait vraiment qu'on élargisse aussi aux OBNL?
Bien, absolument. Dans les faits, pas tous les OBNL. Là. On ne parle pas des organismes communautaires, on ne parle pas des gens, des organisations qui sont en soutien ou qui sont le bras droit ou le bras gauche du ministère de la Santé, par exemple. On parle d'OBNL qui font des activités de lobbyisme. Et moi, ce qui me dérange, c'est que bien, partout au Canada, j'inclus l'île du Prince-Édouard, le Yukon, j'ai rien contre eux, mais ils ont tous des régimes qui encadrent les OBNL. Et nous, au Québec, on a droit à moins de transparence parce qu'on n'a pas cette exigence-là, parce qu'à un moment donné, on a décidé de les exclure un peu comme si c'était une binaire. Ce n'est pas le cas et je pense qu'il y a lieu de réfléchir à ça.
Je reviens dans le temps. On est avec Jean-François Routier, commissaire au lobbyisme, pour rappel. Je reviens dans le temps. Je reviens au temps de la COVID, une période qu'on aime oublier, mais il faut quand même toujours y penser. Et il y a la fameuse firme McKinsey qui, justement, a discuté avec le gouvernement. Le gouvernement lui a fait confiance. On a eu des contrats onéreux avec eux jusqu'à 6,5 millions. Est-ce que ça avait transcendé, justement, les règles du lobbyiste, la façon que ça s'est fait?
Bien, à l'époque, là, vous faites référence probablement au fait qu'on a fermé une enquête qu'on avait démarrée en 2023, il y a quelques jours. Et pour la conclusion, la même conclusion qu'on arrive dans 50 % des enquêtes qu'on fait concernant des entreprises, c'est-à-dire on ne sera pas capable de démontrer qu'il y avait une partie importante des affaires qui était en lien avec du lobbyisme. Donc, c'est un des enjeux qu'il y avait dans ce dossier-là. Maintenant, le problème n'est pas que des entreprises rencontrent des décideurs. Le problème, c'est que dans certains cas, ça devient pertinent tout de suite. Quand on est au cabinet du premier ministre ou d'un ministre, pour moi, ça devient pertinent tout de suite pour le citoyen. Donc, ces échappatoires-là ne devraient pas avoir lieu.
Vous manquez donc un peu de moyens législatifs pour aller aussi loin que vous aimeriez. Est-ce que vous manquez aussi de moyens, j'ai envie de dire, financiers, de ressources? Parce que là, si vous devez faire des enquêtes puis qu'on vous donne des moyens supplémentaires avec la loi, ben, ça va vous demander aussi plus de ressources pour appliquer la loi?
Probablement que, à certains égards, oui, ça se peut. Sauf que si on change la loi, on va changer la loi pour vrai. Ça prend des sanctions administratives, ça prend des sanctions pécuniaires. Alors, on va arrêter de faire des enquêtes pour des gens qui ont déposé des déclarations en retard. On va simplement leur envoyer une amende de 100, 200, 300 $ pour que ça se règle de cette façon-là. Puis en plus, on va pouvoir dire qu'on les a sanctionnés. Et ça, ça va avoir un impact. Et on va renverser la responsabilité sur les entreprises aussi, plutôt que sur les individus. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Est-ce que ça veut dire que demain matin, on va avoir plus d'enquêtes à faire? Peut-être même pas. Mais on va avoir des enquêtes sur lesquelles on va avoir un véritable contrôle, par contre.
Votre réponse me fait penser aussi à une autre préoccupation, parce qu'avec la mise en place des recommandations du rapport Galland, comme ça avait été le cas avec les recommandations de la commission Charbonneau, ça peut ajouter une certaine lourdeur administrative aussi, autant pour les entreprises qui vont faire de l'influence, autant pour vous de votre côté avec des enquêtes, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel, vous êtes sensible? Est-ce que vous pensez que ça risque de rajouter des délais, de la lourdeur, faire baisser l'efficacité de nos processus?
Je ne le crois pas parce qu'on travaille dans l'autre sens depuis plusieurs années. Quand on a commencé à construire Carrefour Lobby Québec, qui est le registre des lobbyistes, on l'a conçu en fonction de la réforme qui n'est pas encore déposée. Mais on l'a conçu en fonction de
ça.
Vous
allez regarder ça à long terme. Là.
Oui, parce qu'on voulait complètement renverser la façon de faire les choses. Donc aujourd'hui, publier un mandat au registre des lobbyistes, un, ça ne coûte rien. Deux, ça prend en bas de 5 minutes. Alors, il n'y a pas de raison administrative, il n'y a pas de fardeau. Et tout ce qu'on va être capable d'enlever comme fardeau, on va le faire. Alors, je pense que ce n'est pas un argument à ce jour, surtout pas un argument pour s'empêcher d'avancer.
En terminant, M. Routier, est-ce que dans le cas, puis je reviens à la COVID, dans le cas de McKinsey, il y a quand même des actions qui sont troublantes dans ce dossier-là? Je fais juste regarder, McKinsey avait justement des liens avec la compagnie Pfizer. On a tutoyé le plus haut fonctionnaire de l'État, Yves Ouellet, dans des courriels. Alors, est-ce que c'est des choses qui vous mettent la puce à l'oreille, que vous vous dites, oups, on a contourné certaines règles?
Bien, encore une fois, je dois me fier à ce que mes enquêteurs m'ont dit. C'est sûr qu'il y a eu des communications qui ont été faites. Il y a des gens qui ont été rencontrés en haut lieu. Est-ce qu'il y a eu des infractions qui ont été commises? Je ne suis pas capable de le démontrer aujourd'hui. Par contre, à ma connaissance, McKinsey n'est pas inscrite à aucun registre des lobbyistes au Canada. Donc, faut tirer les conclusions qu'on peut.
Monsieur Routier, je vous remercie infiniment. Jean-François Routier, commissaire au lobbyiste. Je vous remercie infiniment d'être passé à l'émission On en jase et au plaisir de se reparler.
Merci.
Merci beaucoup.
On en jase jusqu'à 14h.
Émission On en jase qui roule sur les chapeaux de roue ce midi. On vient de parler justement de lobbyiste avec Jean-François Routier, commissaire au lobbyiste, surtout de ce qui s'était passé durant la COVID avec cette fameuse firme McKinsey. On a parlé d'entrée de jeu dans le caucus avec Antonine Iaccarini de Troisième Lien. Et qui dit Troisième Lien, bien dit la communauté du Grand Lévis. Et pour en parler avec nous de cette annonce de Christine Fréchette, on a Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. Marie-Josée, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous-même. Comment
ça va? Ah, ça va très bien. Marie-Josée, je voudrais savoir d'entrée de jeu comment la Chambre de commerce reçoit cette annonce de Christine Fréchette alors que pour le Troisième Lien, on revient encore à la planche à dessin.
Ben, écoute, c'est assez incroyable, mais bon, on accueille ça favorablement. Et c'est certain que là, on nous a parlé d'un plan structuré avec des actions à court, moyen, long terme concernant tous les enjeux qui nous touchent au niveau de la mobilité puis le transport. Fait qu'on peut pas ne pas être favorable à ça, mais évidemment, notre côté prudence ressort. Hein. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de promesse-là. Puis Mme Fréchette, ben oui, elle est candidate à la chefferie, mais ce n'est pas fait encore aussi. Fait qu'on va vouloir entendre. Je crois que Bernard Drinville va sûrement faire une sortie aussi prochainement. Donc, on veut entendre aussi sa position. Je pense qu'il faut rappeler que nous, on veut un lien à l'Est. Fait que c'est ce que Mme Fréchette préconise. Puis elle nous parle aussi d'amélioration à très court terme au niveau de la mobilité de transport. Fait que dans le fond, Jean-François, c'est juste du positif.
Oui, mais est-ce que vous y croyez encore? Parce qu'on le reçoit par texto, puis on le ressent. Il y a plus grand monde qui croit encore au projet Troisième Lien présenté par la CAQ. Est-ce que vous avez encore de l'espoir que ça pourrait peut-être se réaliser entre les mains de la CAQ?
Moi, je pense qu'il faut avoir des discussions franches. J'en ai une avec Mme Fréchette récemment. J'ai senti qu'elle nous avait écoutés. Fait que si j'y crois, j'ai de la misère par moment. Par contre, est-ce qu'on en a besoin? Oui, absolument. Donc, je pense que Mme Fréchette l'a bien entendu quand j'ai eu ma discussion avec elle. Il va falloir maintenant que je m'assoie, parce que vous savez que ça risque d'être encore une fois un enjeu électoral hein, pour la prochaine campagne de cet automne. Donc, il va falloir s'asseoir avec toutes les parties, parce que là, il faut arrêter de dire on y croit ou on n'y croit pas, on en a besoin. Donc, le troisième lien qui reviendrait à l'Est, c'est une excellente nouvelle en soi, parce qu'on en parle depuis tellement longtemps, puis la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, on le préconisait à l'Est. Donc, il faut arrêter de tergiverser, ça je l'ai dit mille fois, surtout sur vos ondes. Je pense que à chaque fois, on n'en revient juste pas, mais honnêtement, on a besoin de ce lien-là. Il faut que ça se fasse. Mme Fréchette semble l'avoir entendu et c'est ce que je salue aujourd'hui.
Marie-Josée, le principe d'utilisateur-payeur, est-ce que vous êtes pour ou contre à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis?
On n'est pas du tout contre. Ça avait déjà été évalué dans les premières moutures. Fait que tu le sais, hein, nos infrastructures routières se dégradent. Il y a des déficits qui se creusent. C'est ça qu'il faut penser à savoir si on doit aller dans ce sens-là. Le péage, là, quand on regarde vraiment ce que ça peut amener, c'est une meilleure planification des infrastructures aussi. Je pense qu'on peut pas être fermé à analyser cette voie-là. Mais comme je vous le dis, nous, on n'est pas du tout fermé à ce que ça soit ça. Puis je crois que dans le coin de Montréal, l'autoroute 30 ou la 25, ils ont une portion qui est à péage. Puis ce que je vois, c'est quand même très bien accueilli.
Fait que la priorité, c'est que ça se fasse. Vous avez dit, vous avez eu des discussions avec Mme Fréchette, justement. Ça fait partie de vos demandes que les politiciens viennent vous rencontrer, viennent vous parler. Est-ce que vous avez senti plus d'écoute de la part de Mme Fréchette que vous avez ressenti par les autres politiciens au cours des dernières années?
Bien, dans ce dossier-là, oui. C'est la première fois que je parlais à un ministre, à une ministre, de ce projet-là. Fait que ça répond à ta question. C'est assez franc et direct. Mme Fréchette a pris la peine de m'appeler. Ça, je pense que c'est important. Je juge qu'on est une organisation incontournable dans ce dossier-là. Comme je disais, on est très actifs depuis 50, 70 ans sur ce projet-là. On l'a réactivé dans l'actualité en 2014. Et là, maintenant, c'est un enjeu électoral depuis ce temps-là. Nous, on veut que ça finisse. Il faut le faire, le projet. Et j'ai senti vraiment que Mme Fréchette était à l'écoute.
Marie-Josée Morancy, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé à l'émission On en jase. Je suis obligé de raccrocher avec toi parce que la candidate à la chefferie, Christine Fréchette, va nous appeler dans quelques minutes.
Merci. Bon après-midi.
Salut, bon après-midi. Marie-Josée Morancy, très intéressant d'entendre que c'est la première qui l'a appelée.
Quasiment inquiétant, par exemple.
Oui, très inquiétant.
Honnêtement, voyons.
Ben non, ça n'a pas de sens.
Ben, c'est parce qu'on nous dit que c'est une question de sécurité économique. Je pense que les chambres de commerce seraient comme intéressantes de leur parler.
Ben,
je ne sais pas.
Juste un petit peu. Un tantinet. Courte pause à Boulevard 101 par la suite. La candidate à la chefferie, Christine Fréchette, est en onde avec nous à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Émission d'En jase, on va parler des Jeux olympiques tout à l'heure en fin d'émission avec Alex Laramé, belle médaille d'or en patinage de vitesse longue piste en équipe. Mais maintenant, comme le temps est compté, comme elle est une femme très en demande à l'heure actuelle avec la conférence de presse qu'elle a faite à 10h concernant la mobilité de la grande capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, on va immédiatement rejoindre au bout du fil la candidate à la chefferie de la CAQ, Mme Christine Fréchette. Mme Fréchette, merci beaucoup pour votre temps que vous nous accordez aujourd'hui.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Mme Fréchette, est-ce un désaveu du travail de Geneviève Guilbeault et de votre chef, le premier ministre François Legault, votre annonce d'aujourd'hui?
Écoutez, la situation a évolué là, entourant le troisième lien. D'une part, les quelques appuis qu'il y avait pour le corridor central pour un troisième lien ne sont plus là. Donc, il fallait reconsidérer donc le lieu, d'une part. Puis nous, moi, comme candidate, là, je veux agir sur le court terme. C'est important d'amener des résultats pour la population de la capitale nationale puis de Chaudière-Appalaches à brève échéance parce que ça fait longtemps que cet enjeu-là de la mobilité perdure dans la région. Alors, ce que je propose, c'est d'agir dès le printemps prochain pour les 3-4 prochaines années sur le réaménagement de la tête des ponts à Québec, également l'élargissement de l'autoroute 20 sur une plus grande distance, également rabaisser le tablier du pont de Québec de telle sorte que les camions puissent à nouveau circuler sur le pont de Québec, ce qui va créer une sécurité économique, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un seul des deux ponts qui peut avoir du camionnage, puis ça pose un enjeu d'insécurité advenant qu'il y ait quelque chose là, qui nous amène à devoir fermer le pont pour une certaine période de temps. Il y aura également la construction d'un pont à étagement à l'intersection de Robert-Bourassa et le Bourgneuf, et le lancement d'un appel de proposition pour un nouveau lien interrive, mais plus à l'est. Celui du corridor central n'a pas l'appui des gens de la communauté. Et c'est des coûts importants pour les finances publiques qui, on le sait, sont quand même mises sous pression. Alors moi, je veux que le privé participe au développement du nouveau lien interrive plus à l'est.
Mais Mme Fréchette, si on déploie toutes les actions qui sont dans la phase 1, est-ce qu'on va vraiment avoir encore besoin d'un troisième lien après?
Mais je pense que les gens souhaitent qu'il y ait accès à un lien plus à l'est pour question de contourner la capitale nationale pour certains déplacements, le transport de marchandises notamment. Je pense que ça répondrait à des besoins notamment des régions environnantes plus à l'est pour faciliter l'accès à l'autre rive du fleuve. Donc voilà, moi j'attends du privé à ce qu'ils nous soumettent des propositions. Et ma perspective, ma perception, c'est qu'il faut que ce soit le privé qui soit leader dans le financement. Puis j'ose espérer que le fédéral aussi sera du nombre pour financer un tel lien. Et dans le contexte actuel, les finances publiques sont vraiment mises sous pression. On a des nombreux projets, dossiers, enjeux en matière d'hôpitaux à rénover, des écoles, des routes à entretenir, à remettre à niveau. Alors il faut vraiment ordonnancer nos priorités, tenant compte de ces besoins-là dans les infrastructures autres.
Dans les derniers jours et les dernières semaines, vous avez consulté, vous avez fait vos devoirs, vous avez parlé à plein de gens. À la lumière de tout ça, est-ce que techniquement, vous croyez vraiment que c'est possible d'avoir un projet de troisième lien à l'est? Parce qu'il y a quand même des défis techniques importants. Vous, vous y croyez?
Oui, tout à fait, parce que c'est ce que m'ont dit les gens que j'ai appelés, justement, les autorités, les dirigeants d'organismes économiques, les maires, les citoyens, des collègues également. Tu sais.
Mais ça, ce n'est pas des ingénieurs, par contre, hein, Mme Fréchette?
Non, effectivement. Puis j'ai rencontré aussi des spécialistes. Puis chaque tracé pose des défis techniques. Le corridor central, notamment, on me disait que le défi technique était colossal. Donc, c'est sûr que le fleuve, hein, c'est un joyau, certes, mais c'est aussi des complexités sur le plan de l'ingénierie. C'est un des fleuves les plus profonds au monde, là, ai-je appris. C'est 50 mètres de profond. Donc, c'est sûr que ça pose des enjeux sur le plan technique. Mais je suis confiante qu'on a l'expertise qu'il faut pour déployer une infrastructure qui va servir les Québécois. Et voilà. Donc, il y avait une demande assez partagée, je vous dirais, de l'ensemble des personnes que j'ai appelées pour un lien plus à l'est. Les gens souhaitaient davantage une boucle qu'un corridor qui est très rapproché des centres-villes, qui par ailleurs aurait causé une pression additionnelle aussi sur le trafic à Québec puis à Lévis. Ça, les gens voulaient éviter ça. Et moi, je vous dirais aussi, comme dirigeante potentielle de la CAQ, eh bien, c'est important qu'on gère les finances publiques d'une manière rigoureuse. C'est dans l'ADN de la CAQ. Alors, j'arrive avec un plan pragmatique, complet, en plusieurs étapes, dont les gens vont pouvoir bénéficier des retombées à courte échéance.
Justement, parlant des finances publiques à gérer de façon rigoureuse, question des auditeurs, si le troisième lien à 11 milliards est trop cher et que ça prend un partenariat du privé, qu'est-ce qu'on fait avec le tramway si les coûts explosent à, par exemple, 11 ou 13 milliards?
En fait, on va continuer de faire pression sur le fédéral. Vous savez qu'au fédéral, il y a des demandes qui ont été faites pour le financement du tramway. Alors, on va poursuivre nos discussions. Il y a eu un changement de gouvernement de leur côté. Ça a amené un retard, mais je suis très confiante que le fédéral va être présent pour ce qui est de financer le tramway de Québec. On va trouver des solutions. Donc, je vais m'y attarder, m'y engager dès mon arrivée en fonction.
À 40 % même si le projet venait exploser là, dans les alentours de 11 ou 13 milliards, comme Steve Lavoie le laissait paraître dans la Chambre des communes?
Écoutez, là, j'ai pas les chiffres de dernière version des chiffres, donc je peux pas m'avancer là, précisément sur un montant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le fédéral doit être présent dans une très grande part, une part significative, de telle sorte qu'on puisse baisser la pression sur les contribuables québécois.
Parce que ça serait très difficile pour le fédéral d'aller chercher un 40 % de 13 milliards, par exemple, parce que ça les amènerait à peu près là, à 6 milliards. Puis présentement, ils ont juste donné 1,45 milliards et ils ont 5 milliards par année pour l'ensemble du Canada. Ça ne sera pas possible d'aller chercher ça pour Québec?
Ben, on va mettre tous les efforts possibles. Et puis, il y a les programmes qui, sous l'ère Trudeau, ont été modifiés maintenant que c'est l'ère Carney. Alors, il y a eu une reconfiguration, je vous dirais, des programmes. Je pense qu'on a un contexte aussi qui fait en sorte que le premier ministre Carney souhaite qu'il y ait des projets d'infrastructure. On le sent très preneur de ce type d'investissement-là parce qu'il y a matière à aider au développement économique dans le contexte de la guerre tarifaire qu'on connaît, puis des projets d'infrastructure tels que celui du tramway de Québec, ça peut répondre à cet objectif-là.
Pourquoi cette fois-ci les Québécois vous feraient confiance sur votre plan de mobilité? On parle de projets qui ont été abandonnés par la CAQ. On parle d'une nouvelle refonte d'un troisième lien qu'on nous promet depuis maintenant des années et des années du côté de la CAQ. Pourquoi les Québécois vous feraient confiance avec ces projets-là?
Mais la proposition qu'on a faite ce matin va bien au-delà d'un troisième lien. Elle permet d'agir maintenant, au cours des prochains mois, pour améliorer la circulation. Puis je pense que c'est ça que les gens de la région veulent. Pas nécessairement avoir gagné 2 minutes dans 12 ans avec un troisième lien qui serait mis en place. Je pense que les gens veulent rapidement des améliorations de la situation, puis c'est ça qu'on propose. C'est beaucoup plus complet comme approche. Et puis, en plus, ça met pas autant de pression sur les finances publiques. Là, Dieu sait qu'on aura des choix importants à faire entre des hôpitaux à rénover, des écoles à rénover, des routes aussi à entretenir. Donc, on arrive avec, je pense, une proposition beaucoup plus d'impact, de beaucoup plus d'impact pour les citoyens à brève échéance. Et je comprends pas que Bernard Drainville s'en tienne encore coûte que coûte à un projet entièrement financé par les fonds publics qui n'a pas l'appui des gens de la région, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Alors moi, j'arrive avec une proposition qui rallie, qui rassemble. Je pense que ça fait montre du type de leadership que je souhaite avoir. Et j'étais très fière d'avoir notamment Martine Biron à mes côtés, qui, elle, a été les deux mains dedans, là, comme on dit, depuis plusieurs années là au niveau du troisième lien. Puis François Bonnardel aussi, en tant qu'ex-ministre des Transports. Donc ça me donne confiance quant au fait que ça réponde, en plus des discussions que j'ai eues avec les citoyens, les collègues, puis également les dirigeants politiques et économiques. Donc ça me donne confiance que ça répond adéquatement aux besoins de la population.
Exactement. Vous êtes présenté aujourd'hui avec, à vos côtés, une députée de la Rive-Sud de Québec. Pour vous, ça devait évidemment faire partie un peu de la stratégie de communication d'annoncer cet appui-là aujourd'hui. Il y avait aussi tantôt, on avait la présidente de la Chambre de commerce de Lévis qui nous disait que c'est la première fois que quelqu'un la consultait sur le troisième lien depuis toutes ces années qu'on parle du projet. Mais de l'autre côté, votre adversaire, Bernard Drainville, essaie toujours un peu de vous définir comme étant hésitante. On consulte, c'est long, on décide pas. Est-ce que vous êtes une personne hésitante, Mme Fréchette?
Mais pas du tout. C'est que je suis une personne qui est à l'écoute, d'abord et avant tout. Alors moi, d'entendre Bernard Drainville se vanter qu'il n'a pas besoin de parler à qui que ce soit parce qu'il connaît la solution, ben, je pense pas que c'est la façon de faire la plus constructive. Moi, j'ai pris le temps de parler aux gens, de les consulter, et j'étais contente justement d'appeler la présidente là, qui disait qu'effectivement, elle m'avait confié que c'était la première fois qu'on la consultait sur le tracé en tant que tel, ce qui m'a étonnée, je dois vous dire. Mais toutes les personnes à qui j'ai parlé ont salué le fait que je prenne le temps de les appeler. Ça a été apprécié de toutes parts. Alors peut-être Bernard a une autre perception de la chose, mais moi ce que j'entends sur le terrain, c'est que les gens ont vraiment salué ma démarche. Et j'en suis fière parce que, en fait, ça fait partie de ma façon de faire. Ça fait partie de mon type de leadership, d'être rassembleuse. Et je pense que c'est nécessaire, particulièrement quand on fait des investissements de cette ampleur-là, dans un contexte où les finances publiques, on le sait, sont resserrées. Eh bien, c'est important qu'on soit en phase avec les besoins du milieu. Et puis, je pense que notre plan répond pleinement à ça.
Christine Fréchette, on vous remercie infiniment pour votre participation à l'émission On en jase. On vous souhaite bon succès dans la campagne à la chefferie de la CAQ. Au plaisir de se reparler. J'ai entendu que vous allez avoir des débats là, au mois de mars, donc ça va être intéressant de vous parler avant ou après.
Bien, parfait. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait grand plaisir.
Merci beaucoup. Au revoir. C'était Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la CAQ, qui a présenté son plan de mobilité pour la capitale nationale Chaudière-Appalaches. Une auditrice qui écrit sur le fameux troisième lien, François Legault a très mal géré le sujet. Il a manqué de respect envers les Québécois, Québécoises. Il l'avait promis pour se faire réélire, mais il n'a pas tenu sa parole. En effet, puis malheureusement, Mme Fréchette, il faut qu'elle récupère ses pots cassés-là. Mais je le dis à nouveau, je l'ai dit d'entrée de jeu dans l'émission, c'est un super bon plan qui a été présenté.
Oui, puis elle doit réparer les pots cassés, mais en évitant aussi de mettre, évidemment, Geneviève Guilbeault,
ben oui,
François Bonnardel, Jonathan Julien, puis François Legault dans l'eau chaude ou dans le trouble. Donc, c'est un équilibre qui est fragile pour elle.
De toute façon, on s'entend, on comprend là, que Geneviève Guilbeault n'a pas bien géré le projet. Là. Elle n'a jamais parlé aux acteurs économiques. Ben, a mis un tracé à côté de Valero sans parler à Valero.
Oui. Puis, d'un autre côté, il y a un premier ministre aussi qui, après l'élection partielle dans Jean Talon, a changé d'idée puis que là, il a renvoyé la même ministre à aller défendre le contrat.
Non, non, c'est ça.
Mané, elle ne pouvait pas non plus faire de miracle.
En effet. Donc, la CAQ a mal géré le projet. C'est pas nécessairement Christine Fréchette qui a mal géré ce projet-là. Antonine, je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la première fois que je l'entends lancer des flèches aussi visé envers Bernard Drainville.
Bien, on est vraiment dans une campagne. Là. C'est une vraie campagne qu'on a. Okay? On se préserve pas. Donc, d'un côté, on a M. Drainville qui essaie de coller une étiquette à Mme Fréchette d'hésitante, puis elle tranche pas, puis on tergiverse, puis on jase et tout ça. Et de l'autre côté, Mme Fréchette, elle réplique et elle dit, bien, écoutez, si vous voulez quelqu'un qui part tête baissée pour dépenser des milliards de dollars puis qui parle à personne puis qui a donc raison. Elle était quand même à l'attaque là-dessus. Et c'est vraiment le choix très clair qui est donné aux membres de la CAQ en ce moment. C'est deux approches complètement différentes. Ils ne sont pas nécessairement très loin sur les questions des idées. Ce n'est pas si différent. Mais sur la question de l'approche et le style de leadership, c'est très différent.
Puis je trouve ça intéressant parce qu'on vient vraiment brasser les cartes de ce qui se passe à la CAQ depuis des années. On présentait au début de la campagne Christine Fréchette comme la candidate de l'establishment. Je vais le mettre entre parenthèses. Comme elle qui allait poursuivre ce que la CAQ avait fait. Puis depuis quelques semaines, on veut ramener le PEC. On met le troisième lien aux poubelles pour en ramener un à l'Est. On ramène plein de projets de mobilité qu'on était censé faire dans la capitale nationale du côté de la CAQ, puis qu'on fait pas. De plus en plus, on voit une Christine Fréchette qui ose pas, qui ose critiquer le gouvernement actuel de la CAQ.
Et se détacher de certaines décisions que la CAQ a prises avant la course à la chefferie. Donc, moi, cette trame narrative de dire Bernard Drainville, c'est le renouveau et Christine Fréchette, c'est l'establishment, je pense que ça a été assez flouté.
Ça ne marche pas.
Ça marche pas.
Non, ça marche vraiment pas. Je termine là-dessus, Anto. Est-ce qu'elle a cette personnalité assez rassurante à la Mark Carney pour bien positionner la CAQ aux prochaines élections?
Oui, on dirait que Mark Carney, c'est devenu l'étalon or, là, l'élément...
Bien, c'est parce qu'il a pris un parti qui était voué à l'échec total, puis il l'a ramené, c'est ça, il l'a ramené au pouvoir.
Avec un contexte qui a tellement changé politiquement. Je dirais pas que Christine Fréchette, c'est Mark Carney 2.0, mm-hmm. c'est différent. Mais oui, je pense qu'on n'est pas dans une époque où on veut nécessairement des politiciens flamboyants. On veut, au contraire, quelque chose peut-être d'un peu plus rassurant, quitte à ce que ce soit un peu beige. Puis, tu sais, des fois, on idéalise un peu les politiciens du passé. On dit, oh, c'était des grands politiciens. Oh, ouais. On oublie, on ne sait plus. Tu sais, ils n'étaient pas plus aimés à la fin de leur mandat. Là,
on oublie que Lucien Bouchard a démissionné parce que les militants du PQ disaient, tu ne veux pas faire de référendum dehors. Eh
oui. Puis, René Lévesque a mal fini aussi. C'est toujours comme ça. Mais après ça, on oublie puis on les idéalise. Là, Stephen Harper est super populaire en ce moment. Georges Charest est populaire. Tu sais, Mais, je pense qu'effectivement, on est dans un moment où on ne veut pas d'effet de touche, on ne veut pas des lignes assassines. Tu sais, Pierre Poilievre est pogné avec ça, parce que lui, c'est un super bon politicien, il y a des lignes punch et tout, mais on dirait ça insécurise les gens.
Je trouve que PSPP commence à être pogné avec ça aussi.
T'as pas tort, tu sais, c'est un risque. Je trouve que PSPP est un petit peu plus intellectuel que, mettons, un Pierre Poilievre.
Ça, c'est clair.
T'sais, il y a des arguments très recherchés, il n'est pas juste dans les lignes
punch. Oui, il utilise des mots comme aplaventrice.
Et vacuité intellectuelle.
Oui, c'est ça. Donc là, c'est... déjà là, en partant, on est à un niveau supérieur.
Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une plus grande soif pour des politiciens plus plates un petit peu.
Ce qui est le fun pour nous, c'est que la CAQ n'est pas morte avec Christine Fréchette, selon moi, et que ça va nous amener une belle campagne électorale.
Écoute, moi, je ne suis pas prête à faire mes gageures sur qui va gagner la prochaine campagne électorale.
Non, ça va faire une belle campagne électorale autour d'idées, puis peut-être pas juste autour du camp du oui puis du camp du non, ce qui va juste nous faire du bien au Québec.
Elle brouille les cartes, mais là, évidemment, on verra comment se passe le reste de la course, mais c'est sûr que les sondages sont à l'effet que Mme Fréchette changerait la donne sensiblement.
Après la pause, l'excellent chroniqueur Rémi Villemur du 99.5 Montréal sera avec nous. Anto, tu nous as parlé mardi dernier, tu nous as dit « Hey, t'es là, Curam, Jeff, va falloir checker ça parce que c'est de la bouillie pour les chats. » On a parlé avec Christine Normandin vendredi, la leader au niveau du Bloc québécois. C'est rendu à 6,6 milliards. Mais là, Rémi Villemur nous pose la question que je trouve très intéressante à nous et aux auditeurs. Est-ce qu'on va être aussi sévère avec le gouvernement fédéral pour Curam qu'on l'est avec la CAQ pour Saclic?
Écoute, c'est une très bonne question. J'ai hâte de voir ce que Rémi va en penser, mais moi, c'est sûr que je suis plutôt pessimiste.
Ouais, exactement, moi aussi. On en jase. À l'émission, on en jase. Après cette courte pause sur Boulevard 102.
Avec Jeff Fortin et Pascal Cévé.
Il est exactement 13h23, vous êtes à l'antenne de l'émission On en jase. Mathias, vendredi, on en parlait avec Christine Normandin, la leader du Bloc québécois. On est rendu à 6,6 milliards pour la modification du système QRAM au niveau du gouvernement fédéral.
Juste ça.
C'est sûrement pas terminé. Il y a 85 000 personnes aînées au pays qui ont poursu leur pension au dernier mois. On veut attacher à ce système-là l'assurance emploi, donc c'est full rassurant. Et là, on n'a pas le choix de tisser le comparatif avec sa clique de la SAC. Et Rémi Villemur nous a posé une excellente question que j'ai dit avant la pause, c'est-à-dire, est-ce qu'on va être aussi sévère avec le gouvernement fédéral qu'on l'a été avec la CAQ et la SAC dans le dossier de sa clique? Parce que je vous le répète, 1,1 milliard d'un côté, 6,6 milliards de l'autre.
5 milliards de plus que le coût initial du projet.
Exactement,
aussi.
Exactement. Explosion des coûts de 277%. On va le rejoindre, excellent animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin de 8h à 10h. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ah, ça va super bien, les gars, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, sautons dans le vif du sujet. Moi, je pense qu'on va être moins critique envers Mark Carney et les libéraux qu'on l'a été envers François Legault et la CAQ. Deux raisons à ça. De un, le fédéral, c'est toujours loin de nous autres. C'est à Ottawa, puis on s'en soucie moins. Puis la deuxième raison, bien, c'est tout simplement que la CAQ était un parti politique en perte de vitesse au niveau de l'électorat, tandis que les libéraux ne le sont pas.
Oui, ben je suis moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'on va être plus indulgent, on va être exagérément indulgent avec le fédéral. Moi, le jour, vous rappelez-vous quand Mark Miller s'était fait demander comment il allait faire pour loger les centaines de milliers d'immigrants qui rentraient temporaires par les réfugiés, puis qu'il avait répondu, ils vont construire leur maison. Vous rappelez-vous de ça?
Oui.
Bon, Mark Miller, aujourd'hui... Il est très haut dans le gouvernement Carney.
Ouais.
On ne lui a pas enlevé un dossier important, on ne l'a pas dédouané, on ne l'a pas disqualifié à ce moment-là, parce qu'on a un rapport avec ce qui se passe là-bas qui est différent. Quand ça vient du fédéral, c'est forcément mieux. Ils sont forcément compétents, ils savent forcément ce qu'ils peuvent faire. T'sais, moi, je comparerais un peu Marc Melleux à Éric Kerr. Éric Kerr, c'était une tête de Turc au Québec. Hein, il y avait des caricatures sur ce gars-là. On disait à chaque fois qu'il touche à quelque chose, c'est pas... Marc Melleux, là... Ce n'est pas des grandes réalisations. Donc, moi, le jour où j'ai vu qu'un Mark Miller pouvait s'en sortir, j'ai commencé à porter attention à tous les ratés du gouvernement fédéral et à notre rapport avec ça. On les critique quelques temps, puis après, on passe à autre chose. Arrive Cannes, Phoenix, la non-gestion des frontières. La non-gestion des frontières, c'est... Mm-hmm. Vous savez, quand vous gouvernez un pays, il y a ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Okay? En sciences politiques, ça, ce sont les premières fonctions d'un gouvernement. La sécurité... Hein? Les frontières, quand vous n'êtes pas capable de gérer des frontières, vous êtes illégitime. Vous ne faites pas votre travail de base. Et le gouvernement fédéral n'était pas capable de le faire. Alors là, je regarde. La bonne façon d'analyser ce qui se passe avec QRAM, c'est le dépassement de coût. C'est pas le coût du projet, parce que ça pourrait coûter 10 milliards puis vraiment valoir 10 milliards. Ça reste un pays de 40 millions d'habitants. Au Québec, on est 9 millions. Donc, c'est sûr que les projets sont de moins grand ordre de grandeur. Mais le dépassement de coût, c'est 5 milliards, c'est presque 300%. Et la part du Québec, pas juste dans le projet, je parle juste dans le dépassement de coûts. Donc, pas dans le projet, juste dans le dépassement de coûts, ça équivaut à ce qu'on a payé au total pour sa clique. Et ce qu'on a payé au total pour sa clique, c'est même pas le dépassement de coûts, c'est ce qu'on a payé pour sa clique. Je suis allé vérifier ce matin, sa clique, ça existe là, comme service. Là.
Oui.
D'accord? Donc, QRAM aussi, il y a des personnes âgées qui n'ont pas reçu leur chèque depuis 9, 10 mois. Hein? Je ne sais pas comment ils font pour vivre.
Hey, on les met dans la pauvreté totale. On les met dans la pauvreté totale. Rémi, est-ce qu'on est plus indulgent envers les libéraux fédéraux que la CAQ au provincial parce que l'ennemi au niveau fédéral, c'est les conservateurs et Pierre Poilievre?
Non, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Moi, je pense qu'on est plus indulgent que le fédéral. Ce serait un gouvernement conservateur, ce serait la même affaire. On serait peut-être un peu plus critique parce qu'on les aime moins que les libéraux historiquement, mais c'est parce que ça se passe à Ottawa. Hein? Puis à Ottawa, c'est « the thing hein? ».« The thing ». Par contre, c'est « the thing » qui ne nous intéresse pas. Donc, on est comme un peu hypocrite. Je regrette, là, mais on ne s'intéresse pas à la politique fédérale. Ça, c'est un fait. Hein, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On connaît rarement le nom de notre député au fédéral. D'accord? Puis, en même temps, on est plus indulgent. Donc, on est plus indulgent avec des gens qu'on surveille moins. Là, il faut choisir. Là, hein? Moi, si je surveillais plus quelqu'un, peut-être que je me rendrais compte qu'il est compétent puis j'arrêterais finalement. Je ferais confiance quand j'aurais le dos tourné. Mais là, on ne regarde pas ce qui se passe. Puis, en plus, on leur donne... comment c'est quoi l'expression? Le seigneur sans confession, je ne sais plus trop.
Oui, c'est ça, c'est la bonne expression.
Je ne suis pas sûr de ça, moi. Mais bon, bref, le bon Dieu
le
sans
bon
confession.
Dieu sans confession.
Mais ce manque d'intérêt-là au Québec, est-ce que c'est un phénomène qu'on voit juste au Québec vis-à-vis le fédéral ou c'est vraiment présent partout au Canada?
Bien, ça, c'est une bonne question. Moi, on m'a déjà dit que dans certaines provinces, on regarde moins ce qui se passe dans la province que l'on regarde ce qui se passe au fédéral. Donc, c'est le rapport inverse. Hein? Tu sais, il faut savoir aussi que le Québec a un rapport très particulier avec son État, celui du Québec, parce que l'on soit souverainiste ou fédéraliste, on est une majorité à être nationaliste au Québec, à vouloir que le Québec passe d'abord, à vouloir que nos premiers ministres, qu'ils soient fédéralistes ou souverainistes, aient à Ottawa représenter les intérêts du Québec d'abord. Mais au Canada anglais, ce n'est pas le cas dans toutes les provinces. En Alberta, c'est de plus en plus le cas. Dans certaines provinces comme le Nouveau-Brunswick, si vous êtes un franco un néo-brunswickois, donc un Acadien, peut-être que vous vous tournez beaucoup plus vers l'État fédéral, mais dans certaines provinces, le rapport à la province est à peu près désuet. Donc, le Québec est particulier. C'est pas pour rien qu'il revendique le statut de société distincte. Mais il y a quelque chose de dangereux dans le fait de ne pas regarder ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a quelque chose d'exact dans l'idée que les grosses choses se passent là-bas. Les milliards, ils sont à Ottawa. Les grosses décisions, délégation à l'étranger, politique étrangère, immigration, c'est en bonne partie à Ottawa. Donc, se désintéresser de ça, c'est se désintéresser de nous. Et ça, c'est recommandé par aucun psychiatre.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, Rémi, comme auditeur, comme gens qui veulent prendre soin, justement, de l'argent qu'on donne au gouvernement? Il faut s'intéresser plus? Est-ce qu'il faut forcer les médias à creuser plus aussi? Parce que... Anthony nous parle souvent de ça. Il dit les médias sur la colline parlementaire à Ottawa, c'est ça, ça pose une question, une deuxième. OK, c'est beau, c'est un problème, mais c'est pas grave, on s'en va vers d'autres choses. Est-ce qu'il faut se mettre plus à enquêter sur le gouvernement fédéral?
Bien, je pense que tout le monde a une responsabilité. Là. Si on retient les deux acteurs que tu viens de nommer, les médias et la population, tout le monde peut en faire plus. Je noterais par contre au passage que si les gens qui nous écoutent faisaient l'effort de lire davantage sur ce qui se passe là-dessus, au fédéral, bien, probablement que s'il y avait une hausse de la demande d'information pour ça, il y aurait forcément une hausse de l'offre. Hein? On sait comment ça marche, c'est l'offre et la demande. Donc, si les gens s'intéressaient, tiens, si mettons, là, il y avait des pétitions qui circulaient, si on vous écriviez à votre député provincial de parler à l'Assemblée nationale de ce qui se passe en ce moment à Ottawa, bien là, hein, petit train va loin, là. On pourrait commencer à en entendre plus parler parce que c'est indécent. Que ce scandale-là se passe d'une commission d'enquête. Ça mérite le même travail qui a été consacré à sa clique, là. 600 pages, des blâmes, une enquête, puis des gens qui perdent leur travail.
Rémi Villemur, je termine ceci dans cette chronique express en raison qu'on a eu Christine Fréchette. Je le rappelle, tu es avec nous aux alentours de 13h05, 13h10 chaque mardi et jeudi. Est-ce qu'on s'intéresse moins à Ottawa parce qu'on n'est plus capable d'avoir la fameuse chicane du camp du oui puis du camp du non? Puis quand un député de l'Assemblée nationale se lève pour décrier ce qui se passe à Ottawa, on fait « Ah, oh, pas encore une chicane ».
Non, je pense vraiment que c'est... Il y a une limite à ce qu'on peut se rentrer dans la tête. Là. Soyons réalistes. Là. Nous, on fait ce métier-là, on lit des journaux tous les jours, mais les gens, ils ont des grosses journées, ils ont des enfants à aller chercher à la garderie, ils ont des projets, des rêves de vie, des voyages organisés. Puis là, tu as Donald Trump en bas qui offre tout un show. Hein? C'est fluorescent, c'est vibrant, ça dégouline. Fait que tu sais, les dossiers Epstein, c'est des affaires croustillantes, ça, à se mettre sous la dent, des affaires de même.
On va prendre donc, possession du Groenland.
Ben ouais, c'est sûr que c'est plus intéressant que Curam, là, hein, le Groenland.
En effet. Hey Rémi, c'est un immense bonheur de te parler chaque semaine, les mardis et jeudis. On se reprend jeudi, 13h10, 13h05, 13h10 pour une autre chronique.
Bye bye, les gars.
Salut. Ciao. Rémi. Bonne émission ce soir, Rémi Villemur, que vous pouvez entendre sur les ondes du 99.5. Du lundi au jeudi, de 18h à 19h, les samedis matins, de 8h à 10h, avec la collègue Jacinthe Varel. Et deux fois par semaine dans notre émission, Rémi est vraiment un jeune passionné de politique, un excellent acteur d'actualité pour nous et pour vous, chers auditeurs.
Puis on va se le dire, là, la réflexion est bonne de dire qu'on se désintéresse présentement plus de la politique fédérale que la politique provinciale. Je pense qu'une des choses qui explique ça aussi, c'est qu'automatiquement, la politique fédérale nous touche moins directement.
Oui.
Par exemple, si on regarde juste plus proche, la politique municipale, lorsqu'on parle de déneigement, lorsqu'on parle d'ordure, ça réagit énormément par texto. C'est directement dans notre cour.
Exactement.
Tu t'en vas au provincial. Là, on parle de nos écoles, on parle de nos hôpitaux. Là, ça rejoint directement les personnes. Quand on commence à parler de poste, quand on commence à parler d'armée, ça vient moins
de
toucher...
De frontières.
C'est ça, de frontières, de relations internationales. C'est plus loin du monde que quand on est à l'Assemblée nationale puis on dit hey, « nos hôpitaux présentement au Québec, c'est un désastre. » Les Québécois se reconnaissent là-dedans et disent « C'est vrai que j'attends pendant des heures dans mes hôpitaux pour aller à l'urgence ou que je suis pas capable d'avoir un rendez-vous avec mon médecin de famille. » Ça, c'est des sujets qui touchent plus directement la population. Automatiquement, on s'y intéresse plus.
Exactement, c'est clair. Puis, tu sais, si on prend l'exemple de Curam versus Saclic, bien, Curam, c'est pour les pensions de vieillesse pour le moment. Donc, ça touche seulement la clientèle des personnes aînées. Saclic, c'est tout le monde qui a un char.
C'est tout le monde a un char, puis tout le monde a vu les files d'attente qu'il y a eu lors du déploiement.
Exactement,
puis tout le monde,
à moins 25 $.
S'il n'y avait pas eu ces files d'attente-là lors du déploiement de Saclic, est-ce que ça aurait fait autant de bruit?
Non, parce que c'est ça qui a déclenché. Exact. Le bruit et par la suite, les journalistes se sont enquêtés. Là, c'est là qu'on a vu les dépassements de coûts et surtout le fait que ça ne fonctionnait pas du tout non plus.
Fait qu'encore une fois, c'est qu'on a eu un dossier qui a eu un impact direct sur la population. Oui. Des personnes qui voulaient faire renouveler leur passeport qui n'étaient pas capables de le faire ou qui voulaient tout simplement avoir leur nouveau permis de conduire qui avaient de la difficulté avec ça. C'est sûr que quand tu as des files d'attente concrètes dehors au froid, après une fermeture de bureau d'un mois... Ben ça allume quelques lumières dans la tête de beaucoup de personnes.
C'est clair. Mathias Turcotte, t'es un excellent analyste de politique. T'es un excellent journaliste sur le terrain. T'es un bon joueur de hockey aussi, je pensais.
Yes, ben j'ai joué longtemps.
Ouais, excellent.
Plusieurs années.
T'as-tu déjà entendu parler de la classique annuelle Boulevard?
Ben oui, j'étais là l'an passé.
Ça va être la quatrième année. Ça prend place le 19 mars prochain à 19h au Centre de glace Intact Assurance dans l'arrondissement de Sainte-Foy. C'est quoi la classique annuelle? Ben c'est carrément notre version de la populaire Winter Classic où notre gang d'animateurs et collègues les plus en shape vont affronter une de vos équipes. Notre équipe est en train de se préparer et on veut connaître nos prochains adversaires. L'an passé, les gars étaient vraiment cool. Les Icemen de Saint-Isidore que j'ai eu la chance de coacher, de boire de la bière avec eux autres parce qu'en Beauce, on n'en prend pas juste une. Ils sont débarqués en autobus scolaire, en pantoufles de Fentex et avec un chrome de taureau, rien de moins. Vous jouez pour le plaisir dans une équipe de hockey avec des collègues ou des amis. BLVD 102.1 veut triper avec vous. Donc, rendez-vous au blvd.fm pour vous inscrire avant le 27 février. C'est simple, t'es une gang, tu disais, moi, je vais affronter la gang de Boulevard. Tu t'en vas sur le blvd.fm dans la section concours et t'inscris ton équipe. Nouveauté cette année, on va même offrir des chandails de hockey pour votre équipe avec votre logo grâce à Nagano. C'est extraordinaire, vous allez avoir un nouveau chandail en plus si vous êtes l'équipe chanceuse. Que vous ayez déjà une équipe existante ou que vous formiez une spécialement pour l'occasion, c'est le moment de vous faire acclamer et d'entrer dans la légende Boulevard au Centre de glace Intact Assurance. Inscrivez-vous et venez voir ça. Ça va se passer le jeudi 19 mars à 19h.
Donc, on va avoir du fun. C'est trippant. Là,
ah,
pour vrai, comme
vraiment.
Événement.
Honnêtement, c'est un événement à ne pas manquer. Allez-y, hockeyeurs de Ligue de garage. Ça va être un moment fort de votre équipe de hockey dans l'histoire de votre concession de Ligue de garage.
Puis t'es là, on jette pas des gants sur la patinoire. On est là avant tout pour se faire un trip en gang puis avoir du fun. Là. Fait que,
exactement.
Soyez pas stressé à vous dire ah, « Est-ce que j'ai le calibre? » Non, non. Hey, on est là pour triper, avoir du fun puis jouer du bon hockey.
Le Canada, les tricheurs en curling mène maintenant 2-1 sur l'Angleterre dans la compétition de curling masculin. Mais on ne parlera pas de ça après la pause avec Alex Laramé. Non, non, non. On va plutôt parler de cette belle médaille d'or ce matin en course par équipe en patin de vitesse longue piste. Une deuxième médaille pour la Québécoise Valérie Maltais. On va parler de Marie-Philippe Poulin qui est passée à l'histoire du hockey féminin canadien hier avec ses deux buts contre la Suisse. Et évidemment, on va mettre la table pour l'affrontement de demain 10h40 entre le Canada et la Tchéquie en quart de finale au tournoi des hommes. Donc, dans un instant, c'est ce qu'on jase à l'émission On en jase sur Boulevard 102.
Tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.
Du lundi au vendredi, de midi à 14h, c'est l'émission On en jase. Pour cette semaine, je suis avec Mathias Turcotte, excellent journaliste sur le terrain pour Boulevard 102.1. Faites un bon job, Mathias, qui va aller se retaper le conseil, la conférence de presse pré-conseil, parce que normalement, il serait en train d'écouter Bruno Marchand nous parler de plein de choses de la ville de Québec.
Ben aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va surtout être pour parler du troisième lien,
oui.
On va être bien honnête. Fait que j'ai enlevé mon chapeau de journaliste pour venir animateur avec toi, puis là, je le réenlève pour retourner
exactement.
Journaliste cet après-midi.
Et il sera dans le retour de Gravel aux alentours de 16h30 pour en parler justement. Alex Leblond est là également pour sa chronique financière à 15h30. Donc, c'est le retour de Gravel de 14h à 18h. Et Marceau le soir à compter de 18h qui est avec Pat Raymond aujourd'hui. On va parler de finances dans Marceau le soir à compter de 18h. 418-971-1011, je vous le répète, mais je le sais que vous le connaissez, ce numéro-là. C'est le numéro pour nous texter, pour donner votre opinion, car vous l'avez utilisé énormément aujourd'hui. Merci pour vos commentaires. On n'a pas le temps de répondre à tous, mais merci beaucoup pour vos commentaires concernant le troisième lien et les dossiers que la CAQ ont gérés au niveau de la région de Québec. Pas grand-chose qu'ils ont géré correctement, tant qu'à moi. La page YouTube pour s'abonner, c'est le meilleur moyen. Et sur la page YouTube, vous retrouvez le podcast qui a été diffusé hier à 19h, podcast que j'avais enregistré avec Josh Chinoski, un jeune homme de 33 ans qui, entre 8 à 21 ans, s'est fait battre à répétition par le pasteur Claude Guillot, qui a été reconnu coupable, qui est en prison à l'heure actuelle. Donc, une histoire d'horreur qui vous est racontée. Allez l'écouter. C'est très pertinent, honnêtement, et Josh le raconte avec énormément d'assurance. Franchement, ça m'a impressionné qu'il soit capable de parler d'autant d'horreur qu'il a subi en restant calme et posé comme il le fait. Chapeau Josh, on pense à toi chaque jour, puis on souhaite que ta vie soit positive. En tout cas, elle est une belle conjointe, puis tu as 3 enfants. Félicitations, mon chum, de t'en être sorti. Et aussi, bien, vous pouvez consulter le blvd.fm pour réécouter les meilleurs moments et également pour nous écouter via la web radio, l'application Boulevard aussi, 102.1 sur App Store et Google Play Store pour nous écouter. On s'en va rejoindre notre journaliste et chroniqueur sportif au 99.5 Montréal, Alex Laramé. Parce que comme le veut la tradition depuis le début des Jeux olympiques, on fait une chronique avec Alex dans l'émission On en jase. Alex, comment vas-tu?
En pleine forme, vous autres, les gars.
Yes! Hey, Alex, 2 médailles d'or. Une gagnée ce matin avec la course par équipe de patins. Hey, je regardais les filles à matin, là. Ça doit tellement faire mal aux jambes. Ils patinent à pleine vitesse, à relais en prenant la pole position, un à la suite de l'autre, pour faire reposer les coéquipiers pendant 3 minutes 40. Et le Canada qui remporte la médaille d'or.
Ah ouais, super belle médaille des filles. Et d'ailleurs, ils ont fait une course un peu similaire en demi-finale qu'en finale. On sent que l'équipe canadienne, ils ont des débuts toujours plus lents. Au début, on prend le retard. Puis plus la course avançait, c'était exactement ce qui s'est passé en finale. Le temps remontait pour les Canadiennes et finalement, on a pris l'avant, je pense, avec 3 tours à faire. Puis on a réussi à battre les Pays-Bas qui sont très, très forts dans toutes les compétitions de patinage de vitesse. Donc, c'est tout un exploit pour l'équipe canadienne qui était d'ailleurs... Il y avait Valérie Maltais, évidemment, qui faisait partie de cette équipe-là. C'est sa 2e médaille à ces Jeux. Puis c'était le fun de voir l'équipe canadienne, hein, vraiment une grande qui était première, suivie des 2 petites. Là. On sent qu'une disposition là, pour être vraiment aérodynamique. Là. Visiblement, ça a fonctionné puisqu'on est allé chercher l'or à cette compétition ce matin. Bravo aux filles, là, super belle performance.
Ah oui, c'était exceptionnel. Une qui nous a fait triper aussi hier dans une compétition tellement spectaculaire, qui est le grand saut à ski, le Big Air qu'on a connu justement ici à Québec. Il y avait une compétition il y a de cela quelques années. C'est Megan Oldman qui enlève justement la médaille d'or.
Ah ouais, tu l'as dit, c'est super spectaculaire. Hein? C'est pas une petite descente. Il y en a en plus qui la font de reculons. Là, quand tu les vois partir, t'es comme OK. Là, on sent que c'est des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font, parce que moi, c'est sûr, si je fais ça, je me tue. Là, oubliez ça. Fait que non, Megan Oldman, super belle performance. En fait, elle a tellement dominé à ses 2 premiers sauts que lorsqu'elle s'était lancée pour son 3e saut, elle était déjà assurée de la médaille d'or. Là, elle a essayé une manœuvre. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Elle a tombé, mais c'est pas grave. Elle s'est relevée. Elle était super contente. Non, honnêtement, 2e médaille pour elle aussi à ces Jeux. Donc, on se plaignait qu'on n'avait pas de médaille d'or, mais là, ça commence à débouler. Là. Ça en fait 2 en 2 jours. Donc, il faut continuer sur cet élan-là. 1 médaille d'or par jour, je pense qu'on le prendrait bien.
Ah,
oh,
vraiment? Ouais, non, ça va bien là, pour la délégation canadienne après un début plus difficile. Je regarde, là, c'est justement le Big Air chez les hommes qui vient tout juste de commencer. Et on va surveiller le Québécois Dylan Deschamps.
Ouais, non, effectivement, il pourrait peut-être surprendre dans cette compétition-là. J'ai pas regardé les classements mondiaux, mais bon, on sait que les Canadiens sont toujours très bons dans ce genre de compétition-là. Donc, on souhaite qu'ils nous surprennent puis qu'ils ramènent une autre médaille aujourd'hui, là. Ça se prendrait bien, là. On serait content.
Exactement. Un nom qui était sur toutes les lèvres hier, c'était Marie-Philippe Poulin. On écoute.
Vers Jakes. Poulin tire sur réception, bloqué par Article. Et voilà le but!
Deux buts hier. Elle est rendue à 20 en tournoi olympique. Elle a marqué de ses buts qui ont donné des médailles d'or. Elle vient de dépasser Ellie Wickenheiser au sommet du hockey féminin canadien. Il n'y a pas de doute dans mon esprit, c'est la plus grande joueuse de hockey de l'histoire du Canada en hockey féminin.
Ah, c'est même pas preuve. Puis je pense même que tu peux enlever le mot. Au Canada, là, c'est la plus grande joueuse de hockey de tous les temps. Donc, ce qu'elle fait, c'est tout simplement, c'est incroyable. Je veux dire, elle est quand même rendue à 34 ans. Là. On s'entend qu'au hockey, si on passe du côté masculin, à 34 ans, oui, il y a des Crosby qui continuent à être performants à cet âge-là, mais ça reste qu'on est plus vieux. Habituellement, les performances descendent, mais elle est encore, selon moi, la meilleure joueuse au monde. Deux buts, les deux buts du Canada. Puis c'est surtout que elle marque les gros buts dans les grands moments. C'est vraiment sa marque de commerce, si on peut dire. Puis elle continue comme ça. Tu l'as dit, bat le record pour le plus grand nombre de buts. C'est sûr que là, on a obtenu leur billet pour la finale, mais les Américaines, ça va être tough hein, parce que ça reste qu'on a battu la Suisse 2 à 1. Oui, la Suisse, on comprend, ils ont un bon programme de hockey quand même.
Puis la gardienne de but était exceptionnelle dans le tournoi, là.
Non, exactement. Un très gros tournoi pour elle. Elle avait battu les Finlandaises. Elle avait blanchi les Finlandaises en quart de finale. Mais ça reste que, on s'attend à ce que le Canada domine un peu plus. Et historiquement, habituellement, c'est le genre de match qui termine avec des coups plus hauts. Donc, il va falloir, encore une fois, une grosse performance de Marie-Philippe Poulin. C'est pas compliqué. Il va falloir qu'elle mette l'équipe sur ses épaules si on veut ramener l'or dans le match qui sera présenté ce jeudi. Ça va être une lourde commande. Mais s'il y a une femme qui est capable de s'élever à ce niveau-là, ben, je pense que c'est Marie-Philippe Poulin, honnêtement, est impressionnante à voir.
Êtes-vous d'accord avec moi, les boys? Si le Canada veut gagner la médaille d'or en hockey féminin jeudi, ça va prendre une victoire de 1-0 ou 2-1. Il va falloir fermer le jeu à quadruple tour puis profiter d'un ou deux revirements puis souhaiter qu'un de ces revirements-là se retrouve sur la palette de Marie-Philippe Poulin.
Ça serait fantastique. Ça serait fantastique. Ah ouais,
pas mal ça, on le plan de match, hein?
Ah non, faut jouer défensivement. Les Américaines, tu sais, moi, j'ai regardé le premier affrontement. Elles sont plus rapides. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de plaquer là, au hockey féminin aux Olympiques, mais niveau physique, elles semblent plus grosses. Honnêtement, je n'ai pas trouvé un avantage du Canada face aux Américaines. Il faut dire que dans les 7 derniers affrontements entre le Canada et les États-Unis, ben, le Canada est 0-7.
Oui,
les Américaines
exactement.
Ont gagné les 7 derniers affrontements. Fait que c'est pas une nouvelle tendance. C'est quelque chose qu'on a remarqué dans les dernières années. Fait que pour briser ça, tu l'as dit, Jeff, ça va prendre une grosse performance défensive parce que si on joue ouvert coup pour coup, on fera pas de poids face aux Américains.
Mais bon, les Canadiens ont toujours gagné le gros match pour la médaille d'or. Go Canada, go! Parlant de médaille d'or, parlant de hockey, pas le choix de parler du quart de finale demain, 10h40. Le Canada qui va affronter la Tchéquie. Le Canada l'a emporté 5-0 dans le premier match entre les deux équipes en ronde préliminaire. La Tchéquie vient d'avoir toutes les difficultés au monde de battre le Danemark 3-2. Normalement, le Canada devrait se rendre en semi-finale.
Ouais, on s'entend que, sans vouloir nous jinxer, là, ça semble assez une formalité. Là. Tu l'as dit, on les a déjà battus. C'était ce midi contre le Danemark. Là, vraiment pas tout cassé, la Tchéquie. On sait qu'ils sont menés par David Pasternak, mais après ça, c'est plus mince. Hein?
Ouais,
c'est
exactement.
Plus mince pour la Tchéquie. Là, le Canada avait un entraînement aujourd'hui. Et là, il y a des rumeurs. Là, faites pas le saut, les partisans du Canadien, si Nick Suzuki ne joue pas le match contre la Tchéquie, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs là, comme quoi c'est lui qui sauterait son tour.
Sais-tu quoi? Il jouera pas Nick Suzuki parce que aujourd'hui il pilotait un trio avec Sam Reinhart et Braden Eagle, mais parce que Nathan MacKinnon subissait des traitements. Même principe pour Sam Bennett. Et honnêtement, t'sais, vous savez comment j'ai Nick Suzuki en très haute estime parce que j'arrête pas de dire sur les ondes de Boulevard 101 à quel point ce joueur-là m'impressionne dans la Ligue nationale, à quel point je trouve qu'il a élevé les standards par rapport à ce que je pensais qu'il aurait comme carrière. Mais présentement, dans le tournoi, il n'est pas à l'aise au poste d'ailier. Et la ligne de centre est définie avec McDavid, MacKinnon et Crosby. Et tu veux Bo Horvat, le meilleur pour les mises en jeu dans la Ligue nationale comme centre de ton quatrième trio. Donc malheureusement, il n'y a pas de place pour Suzuki. C'est Équipe Canada, il y a du talent, hein, s'il vous plaît, dans Équipe Canada. Là. Donc je vois pas une controverse là. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, Mathias, toi, qu'est-ce que t'en penses?
J'étais un peu... Moi, je pense pas qu'il y a un... Excusez-moi. Je pense pas qu'il y a un mauvais tournoi, là, nécessairement. C'est sûr que la ligne de centre est grande, mais en même temps, Nick Suzuki, si t'es pas pour le faire jouer pour, sur les quatre premiers trios, ça peut très bien être un 13e attaquant, puis qu'on dise « Hey, on te met sur le premier à des avantages numériques, à aller jouer plus défensivement. » Fait que si j'étais à la tête de cette équipe-là, ce serait quand même Nick Suzuki qui serait dans mon alignement pour moi. En tout cas,
ouais, le désavantage numérique,
tant qu'à mettre un Seth Jarvis, par exemple, dans l'alignement, je préfère avoir un Nick Suzuki quand même.
Là. Ouais, le problème, c'est que Jarvis est habitué de jouer à l'aile.
Oui, oui.
Puis je le trouve fringant comme ailier avec sa vitesse. Ça sera à voir. Désavantage numérique, oui, mais en même temps, désavantage numérique. Marner, Stone font un excellent travail. Horvat avec Eagle aussi. Donc, c'est plate. C'est plate pour Nick, mais on dirait que la porte s'est refermée tranquillement, là, malheureusement. Là.
Ben ouais, moi c'est ça que je trouve. T'sais, je l'adore, Nick Suzuki aussi. Mais Team Canada, c'est qu'on a tellement de talent, puis on l'a vu. Seth Jarvis a été bon. Et à l'aile, tu l'as dit, il est plus à l'aise. Nick Suzuki, à l'aile, on sent que c'est vraiment moins naturel. Ouais. Le gars est habitué d'être au centre. Puis une des principales qualités du Canada, une de nos forces, c'est notre vitesse. Puis tous mes respects à Nick Suzuki, mais c'est pas sa force, la vitesse. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement rapide. Lui, il est bien placé, son intelligence de jeu. Et au centre, là, on a trop de bons éléments. Puis je pense que Sam Bennett, en 13e attaquant, avec tout ce qu'il apporte, que ce soit en désavantage numérique et aussi aux mises en jeu, c'est un gars qui a de la grit. Ouais. Donc, c'est plate pour Nick Suzuki, mais oui, il devient un peu l'écarté là, de la formation canadienne. Mais quand même, là, il n'y a pas à rougir de sa performance. Ça reste un des meilleurs joueurs de hockey au monde.
Je suis très d'accord. Surveiller Josh Morrissey, qui était de retour également à l'entraînement. Ouais. Donc, devrait reprendre sa place à la gauche de Colton. Parrico, Alex Laramé, toujours un bonheur. On se reparle demain. On va studier ça aux alentours de 13h15, 13h20, parce que le match du Canada va venir de finir. On va pouvoir dire « On s'en va en semi-finale ».
Ah ouais, on va en avoir à jaser, c'est clair.
Yes! Salut Alex Laramé, merci pour ta contribution à l'émission d'En Jase. Alex Laramé, journaliste et chroniqueur sportif sur les ondes du 99.5 Montréal. Mathias, le temps de rappeler à nos auditeurs que Christine Fréchette a fait une annonce concernant le troisième lien ce matin à 10h.
Oui, c'est un plan de mobilité qu'elle a déposé en trois phases. La phase 1 qui est agir maintenant, on parle notamment du fameux pont à étagement Robert Bourassa de Bourgneuf pour suivre l'élargissement d'autoroute de 20, par exemple. Par la suite, on a d'autres phases, dont une qu'on rajoute une voie sur le pont Pierre-Laporte et également un troisième lien qui serait à l'est, mais en partenariat public-privé qui devrait arriver éventuellement dans ce fameux plan de mobilité-là. Donc, ce serait un pont à péage à l'est que Christine Fréchette propose présentement.
Évidemment, le retour de Gravel, cette émission d'Extrême Centre, va vous tenir au courant de ce qui se passe dans ce dossier. Nous, on se reparle demain à midi. On aura entre autres Steve Lavoie, qui est député pour le Parti libéral du Canada, en ondes avec nous aux alentours de 12h35. Bon après-midi, guys, on se reparle demain.
Salut, bonne journée.